les questions aussi, hein, pour que vous puissiez bien suivre. Et vous avez des amis, donc vous pouvez leur proposer d'écouter la conférence s'ils n'ont pas pu venir ce soir. Bien, je laisse toute la place à Cosette maintenant.
Alors, bonsoir à tous, hein. Alors, il y a des visages que je revois, hein, et peut-être des visages nouveaux. Bon. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait parlé un petit peu on avait commencé sur ce thème à voir ensemble la question de l'origine, hein, de cette place. Hein. Et je vous avais... je vous avais lu quelques extraits du Code noir et en montrant un peu comment le Code noir avait institué le cercle familial au détriment de la figure paternelle. Hein, et il avait renforcé par la loi la présence de la mère dans la vie de l'enfant, liant les deux vies ensemble, les deux destins, hein, en tant que statut de libre, de personne libre ou esclave. Et puis, alors, pour ce soir, on va parler, je vous avais dit que la prochaine fois, donc ce deuxième volet, je vous parlerai de la matrifocalité, ou on appelle aussi la mère potomitan, hein, du coup, qui est une conséquence de ces lois, de ces articles qu'on a lus ensemble, renforçant le rôle maternel au détriment du père. Du coup, cette mère va devenir une déesse. Elle va être déifiée. Et on va voir les avantages et les inconvénients de cette position et puis les conséquences dans les relations. On va voir ça. Et la prochaine fois, on va voir, à ce moment-là, on va parler des pistes. Comment, pour ceux d'entre vous qui souhaitent modifier un peu les choses, le relationnel, je vais vous donner quelques billes concrètes. Hein, vraiment, des choses... qui sont réalisables. Et surtout des choses que j'ai déjà expérimentées avec d'autres. Donc, c'est pas seulement des choses théoriques. Ça marche? Bien. Alors, on va commencer ce soir avec une jolie demande. Ce sont les habitants de Champagné, qui est une ville dans les Vosges. C'est un petit village. Il faut vraiment avoir envie de le chercher pour les trouver, parce que c'est vraiment un village. Et ses habitants, au moment où Louis XVI fait les cahiers de doléances, hein, va faire une demande que j'aimerais vous lire. Bien sûr, ce souhait ne sera pas exaucé, mais c'est quand même intéressant. Alors, donc, cet article qui dit, donc c'est les habitants de la communauté des Champagnés ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies, sans avoir le corps pénétré de vives douleurs, se représentant leurs semblables, unis encore à eux, par le double lien de la religion, traités durement, plus durement que ne sont les bêtes de somme. Ils ne peuvent se persuader qu'on puisse faire usage des productions des dites colonies si l'on faisait réflexion qu'elles ont été arrosées du sang de leurs semblables. Ils craignent, avec raison, que les générations futures plus éclairées, plus philosophes, n'accusent les Français de ce siècle d'avoir été anthropophages, ce qui contraste avec le nom de Français et encore plus celui de chrétien. C'est pourquoi leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté de concerter les moyens pour de ses esclaves faire des sujets utiles au royaume et à la patrie. Moi, je suis toujours étonnée de voir que dans les pires mémoires heureux, il y a toujours des gens qui pensent à défendre les causes nobles. Et ces habitants n'étaient pas allés à Paris. Ils habitaient un petit village dans les Vosges. Et l'histoire veut qu'ils fassent cette demande parce qu'un des nobles de la région qui était à Paris a eu vent de la chose, de l'esclavage, de la traite, ou dans les colonies, comme on l'appelait. Et donc, ils ont été frappés, choqués, parce que dans leur église, rappelez-vous ce qui est dit, c'est qu'au moment de la naissance de Jésus, il y a eu 3 mages qui sont venus l'adorer. Vous vous rappelez, hein? Eh bien, ces 3 mages étaient dans leur église. Et parmi leurs 3 mages, il y avait bien sûr le mage noir. Et ils disent, c'est pas possible. Ce n'est pas digne de notre vocation de chrétien et de français. Bien sûr, c'est resté lettre morte. Mais c'est toujours intéressant. J'ai eu l'occasion d'y aller dans ce petit village. Et là, il y a un musée de la traite et de la colonisation. Il y a un collège Aimé Césaire. Sangor. Et puis surtout, il y a vraiment de quoi visiter le récit de l'esclavage jusqu'à l'esclavage aujourd'hui. Donc ils ont traversé le temps avec cette période comme... c'est un petit village, hein. Faut vraiment vouloir le trouver pour le... Hein? Et c'est tout le contraste, c'est que la seule chose à voir dans le village, c'est ce musée. Donc il y a cette barque au milieu qui rappelle un peu les choses et qui c'est intéressant parce que ici, et c'est pour ça que je fais ce lien, ici, ils ont transmis, hein, c'est ça la transmission, ils ont transmis quelque chose de leur adhésion à quelque chose qui est de l'ordre de l'universel, c'est les droits de l'homme. Hein, c'est pas possible. Mais c'est surtout, ils insistaient bien que ça n'était incompatible avec la notion de chrétien. Ils avaient tout compris. D'accord ? Donc, voilà, c'est intéressant de savoir qu'on est toujours héritier de gens militants. Ben oui, ils sont héritiers de gens militants. Ils auraient pu dire, c'est de l'histoire, on laisse tout ça tranquille. Ben non, ils ont fait un musée, ils sont allés au bout du militantisme de ceux qui leur avaient transmis cette mobilisation. Ils ne l'ont pas oublié. On peut encore visiter aujourd'hui. Et j'étais très attentive à la manière dont le guide racontait les choses. Ah ben c'est oui, on osait bien raconter les choses telles qu'elles étaient. Et puis j'aimerais, alors avec cette revendication très forte dont on peut se servir comme... héritage, militantisme, non seulement dans ce domaine, mais dans tous les domaines. En tant que chrétien, il y a des valeurs, il y a des choses qui sont incompatibles avec nos valeurs. Bon. Et en particulier, cette dimension-là, et surtout le respect de l'autre. Hein. Okay. Alors, j'aimerais juste vous lire un tout petit peu ce que c'est que le trauma. Je mets mes lunettes, elles sont là. Ici, c'est le témoignage d'un esclave qui vient du Nigeria, de la tribu Igbo, qu'on va retrouver d'ailleurs beaucoup en Haïti. Les Haïtiens, il y a beaucoup de Igbo, et donc comme ils se sont un peu révoltés, parce qu'ils parlaient la même langue, les maîtres ont compris qu'il ne fallait plus refaire la même chose. Donc, du coup, après cela, les ethnies ont été éparpillées, hein, pour qu'ils ne soient pas suffisamment solidaires pour ça. Donc lui, il a été d'abord, il est arrivé d'abord à l'île de la Barbade, ça fait partie de toutes les îles de la Caraïbe, on en parle de cela, on va retrouver une similitude, et il dit celui-ci, raconte, il s'appelle Oloda Ekino, et il dit qu'il a été enlevé dans son adolescence et embarqué sur le bateau pour partir aux Caraïbes. Il dit, le premier objet qui s'offrit à ma vue quand j'atteignis la côte, ce fut la mer, ainsi qu'un bateau au mouillage qui attendait sa cargaison. Ce spectacle m'emplit d'un étonnement sans bornes et il se mua bientôt en terreur quand on me transporta à bord. Aussitôt, quelques hommes d'équipage me retournèrent en tous sens pour voir si j'étais solide, et j'acquis alors la certitude que j'avais pénétré dans un monde de démons et qu'ils allaient me tuer. Leur apparence était aussi différait aussi fort de la nôtre. Leurs cheveux et la langue qu'ils parlaient sont point commun avec tous ceux que je connaissais, ceux que j'avais entendus jusqu'ici, s'accordaient pour renforcer cette idée. Et comme je jetais des regards autour de moi sur le bateau, je vis une grande fournaise, comme du cuivre en fusion, et une foule de gens de couleur de toutes sortes, enchaînés les uns aux autres, exprimant jusqu'au dernier le désespoir, et si bien que je ne doutais plus de mon destin, et terrassé par l'horreur et l'angoisse, je tombai inanimé sur le pont et je perdis connaissance. C'est ce qu'on appelle une réaction traumatique. Bien. Alors, cette réaction traumatique qui va marquer le groupe, cette histoire traumatique, eh bien, ce trauma va se transmettre. Ça va se transmettre entre les générations, d'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, même si c'est terminé, on va voir, je vais vous parler donc des effets du trauma, parallèlement, ce n'est pas que la Mésopotamie soit un trauma, d'accord? Mais pour comprendre comment elle fonctionne, il faut qu'on comprenne qu'elle fonctionne à partir d'un trauma. Ça va? Donc, je ferai le lien entre les deux. Ça marche? Bien. Donc, comme le code a donné toute puissance à la mère, et liant le sort de l'enfant avec celui de la mère, eh bien, va se développer chez la mère, chez la femme d'une manière générale, l'idée d'accepter ou pas de faire naître un enfant connaissant sa destinée qui était l'esclavage. Donc certaines femmes vont tuer leur enfant tout simplement pour qu'ils ne connaissent pas le même destin. Parce que sinon ils seraient vendus. Soit ils sont vendus, donc elles ne voulaient pas le même sort. Et ce système, cette réalité qu'on appelle un trauma, ici, ils tombent dans les pommes, comme certaines personnes, face à un choc émotionnel, peuvent tomber dans les pommes. D'accord? Pourtant, c'est un homme. Alors, on voit bien que c'est la force du trauma, parce qu'on pourrait imaginer, avant, l'idée, c'est de dire, oh, c'est seulement les femmes qui tombent dans les pommes. Hein? Les hommes, c'est bien plus solide. Hein? On ne tombe pas dans les pommes. Certainement pas. Quand on est face à un trauma, il n'y a pas d'homme ou femme de face à un trauma. Il y a un individu projeté dans la violence. Parce que la particularité du trauma, c'est qu'il s'agit d'un événement extérieur qui survient avec surprise. On ne s'y attend pas. D'accord? La particularité du trauma, c'est ça. On ne s'y attend pas. En plus, l'événement est violent. Les gens du Népal, ça ne tendait pas, au tremblement de terre, vous avez des traumas. En dehors des morts, d'accord? Tout d'un coup, la terre se dérobe. En plus, je viens d'une région où il y a des secousses sismiques, alors je peux savoir, je me rends compte bien ce que ça peut représenter à ce niveau d'échelle. C'est interminable. Et pourtant, on a eu, j'ai connu des tremblements de terre plus légers. Et on voit bien ce que c'est que ça peut être un événement traumatique. C'est traumatique parce qu'on voit tous les édifices s'effondrer sur vous. Et même quand vous en réchappez, il vous reste votre famille. Enfin, bref, c'est quelque chose. Le trauma a la particularité d'être lié à un événement inattendu, et c'est un événement violent. D'accord? Ce n'est pas une surprise. Une surprise, vous arrivez, c'est votre anniversaire, vos amis vous font une surprise, ou le départ à la retraite, ou peu importe. Ce n'est pas un trauma quand même. Bon, il faut. C'est sûr que c'est une surprise, mais c'est pas un trauma. Bon, à moins vraiment d'avoir des difficultés particulières pour que ça se transforme en trauma. Mais, en général, donc on voit bien que ce n'est pas seulement l'effet de surprise. Il y a aussi le caractère violent de l'événement. Bon, alors, toute proportion gardée, vous prenez une bretelle d'autoroute ou vous arrivez au carrefour et puis tout d'un coup, quelqu'un surgit soudainement et puis vous pilez et puis après vous tremblez. Bon, alors ça peut faire trauma ou comme ça peut ne pas faire trauma. Si ça peut faire trauma, en plus dans l'après-coup, où je me dis, bon, mes jambes tremblent et je lui traite peut-être de tous les noms, quoique j'évite les noms d'oiseaux, si je peux. Et puis, je rentre chez moi et je réalise. J'ai encore, hein, tout d'un coup, eh bien, ma vie devient fragilisée. Alors, de deux choses l'une, soit c'est ce qu'on appelle un traumatisme, autrement dit, ça ne me laisse pas de traces, le lendemain, je prends ma voiture, je continue, voilà. Soit le lendemain, je ne peux plus prendre la voiture. Ou soit, comme j'ai rencontré quelqu'un, elle ne peut plus conduire sur l'autoroute. Mais ça, c'est sérieux. Parce que quand je m'attends à une situation agressive ou de violence, je me prépare. Et je me prépare en m'inquiétant, en m'angoissant. D'accord ? Donc, cette angoisse que j'ai, hein, cette inquiétude-là, ça a la valeur d'airbag, ça amortit le choc. Si la mauvaise nouvelle est là, eh bien, je me suis préparée, alors ça amortit pour éviter que ça fasse trop mal. Mais quand je ne m'y attends pas, ça rentre, ça pénètre violemment. Ça me permet de vous dire que y a des hommes et des femmes qui vivent quelque chose qui est traumatique, mais dans nos représentations, n'est pas un trauma, et donc on le gère avec beaucoup de méconnaissance et de légèreté. C'est la trahison. L'infidélité est un trauma. Le conjoint, qu'il se soit un homme ou une femme, je l'ai rencontré chez les deux, d'accord ? Le conjoint porte les symptômes, les mêmes symptômes qu'une personne qui a vécu, parce que c'est une violence de le savoir. Cette trahison est vécue comme un coup de poignard, donc une violence. Et donc, ça rumine, comme la personne qui a vécu le trauma. Le sommeil est perturbé, comme la personne qui a vécu le trauma. Les images repassent, ou je réentends la réalité, comme la personne qui a un trauma. Parfois, je peux en faire un cauchemar, comme la personne qui a un trauma. Et ensuite, la personne développe une hypervigilance, hein, d'accord, qui se traduit par une méfiance constante, comme quelqu'un qui a un trauma. Or, c'est quelque chose qu'on prend à la légère. Et en plus, quand on est chrétien, donc on dit à l'autre, mais oui, tu as demandé pardon, alors tu le laisses tranquille. C'est-à-dire les effets désagréables du trauma, on dit à la victime, mais tais-toi quand même, hein, parce que tu n'as pas pardonné, et voilà. Et puis le conjoint, il n'a pas du tout envie non plus d'assumer les conséquences de son acte. Je vous assure, je vous donne quelques exemples, c'est du trauma. Et ce n'est pas lu ainsi. Mais demandez aux personnes. Si vous avez en tête des personnes qui sont venues vous en parler, regardez leur état émotionnel. Regardez ce qu'ils vous décrivent comme pénibilité. Ça ressasse. C'est exactement ce que vivent les personnes qui vivent un trauma. Déjà, l'infidélité, c'est par rapport à soi, et non pas par rapport à l'autre. Parce que si on se rappelait que c'était ça dans le texte, il y en a qui auraient arrêté beaucoup plus vite. Bon, parce qu'on, voilà, puisque par rapport à soi, c'est l'image de soi qui est mise sur la sellette. C'est le rapport de soi à soi. Bon, mais je vous assure, donc c'est quelque chose à entendre. Les victimes, c'est vraiment ça. On a besoin d'entendre qu'il s'agit de quelque chose de plus sérieux qu'on ne le pense. D'accord ? L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la conduite, on va dire, mais oui, mais c'est quoi ça, tapilé ? Mais ça arrive tous les jours. Mais c'est l'effet de surprise. Et la personne qui dit ça n'est pas dans la situation d'effet de surprise. Et a tendance à banaliser la chose. Voilà, nous avons besoin d'apprendre à traiter avec beaucoup de respect la souffrance des gens.
Ma mère, 60 ans après, parlait en de la guerre.
Mais oui. Mais oui. Des effets. Et on pouvait lui dire, mais tais-toi, c'est fini. C'est pas possible. C'est ça la particularité du trauma. C'est que le trauma ne se gère pas avec seulement la réalité consciente. Le conscient est soumis au temps. Et on sait qu'avec le conscient qu'on va mourir. Mais la réalité inconsciente. Parce que dans le trauma, il y a deux niveaux. Il y a ce que je perçois et que je vis consciemment. Mais il y a tout ce que, dans le trauma, je vis sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qui est hors du champ de la conscience et donc qui est inconscient. Et ce qui est inconscient est durable. Parce que l'inconscient n'est pas soumis au temps. C'est une partie de nous qui est éternelle. Hein? D'ailleurs, dans nos rêves, pour vous donner un exemple, dans nos rêves, quand on est acteur de nos rêves, on arrive au bord du précipice, au bord du tunnel, et on se réveille. On ne meurt jamais dans nos rêves, vous avez remarqué. Bien. Eh bien, le rêve, c'est la vie inconsciente en nous. Hein? Eh bien, dans l'inconscient, on n'a pas intégré la mort. Et encore, d'accord, c'est pour cela qu'on peut dire la souffrance, même si ça a lieu quand on avait 5 ans, à 80 ans, 60 ans, la personne vous en parle comme si c'était hier, et vous aussi. Vous aussi. Pour ça qu'on a besoin de faire comme le Seigneur, de prendre en considération la souffrance. Parce que la souffrance de tous, il l'entend. Et il le traite avec bienveillance, avec compréhension. Et comprendre la souffrance des gens, ça ne veut pas dire qu'il faille qu'on est d'accord avec tout, mais il faut entendre une souffrance. Bien. Et puis, peut-être qu'on est désarmé, qu'on n'est pas formé. Bon, il y a des formations pour ça. Hein. Bon, il y en a qui ont fait la formation avec moi. Le but de la formation, c'est aider justement des outils pour aider à la souffrance, pour aider à en réentendre, et aider la personne à parler de cette souffrance, pour en élaborer quelque chose, pour lui permettre d'avancer. Non pas d'oublier, mais de réduire les effets de la souffrance liée au trauma, liée à l'événement difficile. Parce que l'événement, on voit bien qu'il est important. Il est très important, parce qu'il marque un avant et un après dans la vie de la personne. Lorsque la personne en parle d'un événement qui va bouleverser sa vie, on sent que plus jamais les choses ne seront plus comme avant. C'est quand même une chose importante. La chose est suffisamment importante, puisque désormais, ma vie ne sera plus jamais comme avant. Il y a un avant et il y a un après cet événement douloureux. Alors, c'est pas rien. Si ça n'avait pas d'impact sur ma vie, si ça n'avait pas, ça transformait pas ma vie, si ça changeait pas ma vie, si ça change pas ma vie, c'est un événement bénin. Mais dès lors que les gens peuvent vous parler d'un avant, d'un après, alors ce sont des choses qui modifient la vie de la personne, c'est-à-dire sa vocation aussi. Ça va entraver sa vocation. Ça va entraver les projets que tu as pour lui ou pour elle. Donc il faut le prendre au sérieux à cause de ça, hein? À cause de l'impact que ça avait dans la vie de la personne. Et pas seulement les chrétiens, mais les personnes, qui, même si elles ne sont pas chrétiennes, même si elles ne connaissent pas Dieu, les gens vous parlent d'un avant, d'un après. Donc, ils vous parlent d'une perte. Il y a quelque chose, de l'événement va leur faire perdre définitivement quelque chose. Donc, c'est sérieux. Le trauma, cette valeur-là, c'est que dans le trauma, eh bien, il y a un avant, un après. La vie n'est plus jamais pareille, avec la particularité d'avoir les désagréments des choses qui reviennent, qui sont réveillées pour un oui, pour un non, entre guillemets. Hein. En plus, ce sont des événements qui ne vont pas rester là. Le vécu traumatique va pas, tant qu'il n'est pas élaboré, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu le mettre en mots, et surtout prendre conscience de jusqu'où vont ces effets. On va continuer à le traîner. D'accord ? C'est l'équivalent d'une fracture ouverte. Pour ceux qui sont dans le milieu médical, vous savez ce que c'est qu'une fracture. Et même quand vous n'êtes pas dans le milieu médical, vous savez ce que c'est qu'une fracture ouverte. Il y a la fracture et une fracture ouverte. Si vous la laissez comme ça, sans intervention chirurgicale, c'est foutu. Bien. Alors, le trauma... Comme le trauma, il faut quelque chose, il faut une aide pour que les choses aillent mieux. Ça n'ira pas tout seul. C'est comme la fracture, ça n'ira pas tout seul. Les choses ne vont pas s'arranger seules. Donc, C'est quoi le trauma? C'est un événement de la vie de la personne ou d'un groupe. Le groupe, par exemple, c'est le Rwanda. Le groupe, c'est les Arméniens récemment. Regardez, c'est toujours pas guéri ce trauma. Regardez quand les gens en parlent. Et la pire des choses qui, pour une victime, c'est quand le coupable refuse de reconnaître le mal qu'il a fait. Il n'y a rien de pire que ça. Mais la reconnaissance du mal ne va pas gérer tout, parce qu'il va falloir se prendre par la main pour travailler les effets. La reconnaissance, c'est une situation, c'est un élément qui aide, mais la reconnaissance du trauma par le coupable de l'acte, ça ne va pas supprimer le trauma lui-même. Il faudra travailler à élaborer quelque chose autour de la souffrance, et ça fait comme ça, ça fait des cercles en fait. C'est pas linéaire le travail de la souffrance. C'est quand vous avez une plaie, on la panse aujourd'hui, on met le pansement, demain on refait le pansement et ainsi de suite. Donc chaque fois, voilà, l'infirmière enlève le pansement et dit oh là là, ou l'infirmier, bon, il faut quand même remettre un peu du produit. Voilà. Et bien c'est ça, travailler le trauma, c'est faire ça. C'est faire ça aussi. Donc, il y a quelque chose du dire qui est comme ça, qui tourne en rond, comme ça, on a l'impression que ça tourne en rond. Mais chaque fois que la personne fait le récit, chaque fois, elle prend conscience de quelque chose de plus. Chaque fois qu'elle fait le récit, elle prend conscience de quelque chose de plus, mais surtout, elle prend conscience de la profondeur de sa douleur. Et ça, c'est le mécanisme même pour guérir d'un trauma ou d'une souffrance. On a besoin de la dire. Alors, pour pouvoir en découvrir les effets dans les recoins de la vie, pour voir à quel point on a été touché par ça. Mais ça ne veut pas dire que quand on fait ça, on s'en sortira jamais. C'est pas vrai. C'est justement comme ça qu'on s'en sort. On s'en sort pas si on refoule. Alors là, la chose reste en état. Et vous pose encore plus de problèmes. Le refoulement, c'est-à-dire, c'est rien du tout, minimiser, mettre ça de côté, ça, c'est la plus mauvaise façon de gérer le trauma et les souffrances en général. Une souffrance a besoin d'être dite. Comme Jésus a pu dire à Gethsémané, sa réalité. Il a mis en mots au fur et à mesure, pour pouvoir le dépasser. C'est comme ça qu'on sort d'un trauma. C'est comme ça qu'on sort d'une souffrance. C'est de pouvoir la dire, mais le problème, c'est que la dire une fois ne suffit pas. Chaque fois, il faut... À chaque passage, je découvre quelque chose de nouveau. Et pour que je découvre quelque chose de nouveau, j'ai besoin d'un tiers qui m'écoute avec bienveillance. Parce que sinon, je fais mémoire. Et la mémoire, en me racontant à moi-même la chose, elle renforce la souffrance. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est pathogène. Mais quand je le dis à une autre personne qui sait écouter, parce qu'elle a été formée, parce qu'elle a compris que la souffrance, elle est délicate, et souvent devant la souffrance, on n'a pas de mots. Mais quelquefois, il faut se taire. Juste le fait d'écouter et de ne rien dire, ça, les gens vous disent, ça m'a fait du bien. Tu m'as écouté, ça m'a fait du bien. Alors que nous sommes tentés à chercher dans notre tête une solution. Elle n'a pas besoin de solution. Elle a besoin d'une écoute bienveillante. Et c'est ce que nous propose le Seigneur avec nos souffrances. Il nous propose une écoute bienveillante. Et il les accueille toutes et à tout âge. Il n'y a pas un âge où on lui dit, bon, écoute, t'es déjà un peu vieille là, t'as fait ta vie, tu attends, Eh bien, écoute, moi, j'ai plus de temps à perdre avec toi, t'as la petite vieille, le petit vieux, bon, j'ai autre chose à faire. C'est pas ce que nous dit notre Seigneur. Heureusement, oui. D'accord, Il écoute avec bienveillance. Et combien de fois nous lui répétons des choses, dites-moi. Parfois, je me dis, Seigneur, on devrait enregistrer et mettre une cassette comme ça, tu sais. Pourtant, il nous accueille. Eh bien, la souffrance, ça se gère comme ça. D'accord? On a besoin de permettre aux gens de le dire. Je le dis parce que certains Antillais me disent « Oh oui, mais l'esclavage, c'est déjà passé, c'est loin. » Vous allez voir, on va maintenant, je vais vous montrer les traces actuelles d'une souffrance qui n'a pas pu se dire. Et toutes les souffrances qui n'ont pas pu se dire sont refoulées. Et comme on a vu, hein, on a dit au début, hein, et André faisait remarquer que sa mère, hein, tu vois, des années après, 80 ans, vous savez très bien, des années après, se souvient encore de la guerre, la mienne aussi. Hein, et en plus, elle avait vu les deux guerres. Les deux. Donc, elle se rappelait. D'accord? Il y avait des gens qui, bien des années après, fonctionnaient comme si on était en temps de guerre. Parce que tellement c'est du trauma quand même. Hein. Quand on le voit à la télé, ça a l'air... Hein, mais quand même, dans la réalité, c'est autre chose. Hein. C'est un coup de bambou sur la tête. Hein. Parce que tout ça, ces traumas font partie de l'impensé et de l'impensable. Ce qui n'est pas réalisable, ce qu'on ne peut pas imaginer, ce qu'on ne peut pas saisir et penser. D'accord? Bon. Et en plus, dans la violence. Donc le trauma, lui, c'est forcément un événement de la vie de la personne et qui a la particularité d'être intensément violent. Il y a quelque chose de la violence qui est très forte et qui s'accompagne en même temps d'un sentiment d'impuissance. Une impuissance à échapper, à se libérer, à fuir la situation. Et donc, ça va produire des effets qu'on dit pathogènes, c'est-à-dire des effets qui vont générer de la souffrance, et beaucoup de souffrance, de toutes sortes, y compris la dépression, y compris les maladies psychosomatiques, y compris un cancer, y compris tout ce que vous voulez. Donc c'est sérieux. Bien. C'est pour cela que un autre élément est pris en compte aujourd'hui, en tant que connaissance, c'est comment le cerveau gère les traumas. On s'est aperçu qu'il y a dans notre cerveau, des deux côtés, hein, il y a une zone de notre cerveau qui s'appelle le cerveau des émotions. Son rôle, c'est ça. Il déclenche les émotions, il gère l'activité hormonale, et c'est cette zone du cerveau qui prend en charge le système immunitaire. Donc, quand les gens souffrent psychiquement, vous avez remarqué, parfois, ils tombent malades. À cause de ça. Dans le cerveau des émotions, c'est là où se trouve toute l'activité hormonale que vous connaissez bien, la dopamine, l'hormone du stress, l'adrénaline et tout ça, c'est dans cette même zone qui est la zone qui gère les émotions. Les émotions agréables, désagréables, mais aussi la récompense, la satisfaction, le plaisir. Là, il nous faut un petit peu de dopamine, bien élevée, les endorphines aussi, d'accord ? Qui sont les hormones du plaisir. Eh bien, les hormones de la souffrance et du plaisir se trouvent dans le même lieu que la gestion des émotions, et c'est dans cette zone que se trouve aussi la gestion du système immunitaire. D'où le lien entre une grosse souffrance psychique et le fait parfois que les gens tombent malades. Parfois, il s'agit de choper tout ce qui passe. Hein? On se dit, là, on ne voit pas bien, on est affaibli, d'accord? Bon. Eh bien, dans cette zone, on s'est aperçu que le déclencheur des émotions, qui s'appelle l'amygdale, on en a deux dans le cerveau et deux dans la gorge. Ça en fait quatre. Deux ici, parce qu'on connaît bien ceux-là et moins bien ceux du cerveau. Bon. On s'est aperçu que, d'une part, ils mémorisent les événements fortement éprouvés, les stocks en mémoire, et c'est à partir de son stockage que pendant le sommeil, les cauchemars se construisent. Donc, aujourd'hui, pour éviter la surcharge de cette zone, eh bien, on met en place une cellule de crise pour que les gens puissent élaborer à chaud, pour décharger, d'accord, le cerveau de l'intensité de la violence et éviter que les cauchemars ne soit trop perturbant pour la personne. Ça n'enlèvera pas l'effet traumatique, mais ça sert à diminuer les effets. C'est pour cela que les cellules de crise, ça sert à ça. Ce n'est pas un effet de mode. C'est la connaissance du fonctionnement du cerveau et en particulier de cette zone du cerveau qui emmène à faire un peu de prévention, parce qu'on sait que pendant le sommeil, et en particulier le sommeil des rêves, cette zone du cerveau reprend du service, repasse en vitesse accélérée 7 fois plus vite l'événement vécu réellement. Donc on décharge. Hein, c'est pour ça qu'on... Et pour décharger le trauma, on a besoin de mettre en place une élaboration, hein, de prise de conscience pour pouvoir mettre en mots le vécu, le ressenti, même si parfois c'est un ressenti difficile. Et donc, que fait le trauma? Eh bien, plusieurs auteurs ont travaillé là-dessus. Et il y a un auteur qui a très bien compris la chose, puisque lui, il était médecin militaire de la Première Guerre mondiale. Et c'est lui qui va mettre en place une définition très intéressante du trauma. Il va nous dire que c'est une effraction, d'accord? C'est une effraction dans la psyché. C'est-à-dire que c'est comme un voleur qui rentre chez vous par effraction. Ça veut dire, un voleur qui rentre chez vous par effraction, ça fait des dégâts. Donc, une effraction dans la psyché, ça va avoir des dégâts. Et l'une des choses, quand la personne pense que la chose ne durera pas, et c'est le cas, par exemple, des gens qui ont vécu les camps, ou même les esclaves, on dit, ça va finir. Mais l'esclavage, ça dure 200 ans quand même, hein, c'est une éternité, 2 siècles. C'est long. Bon, donc c'est suffisamment long pour que ça fasse trauma. Bon, avec tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ce choc inattendu, non préparé, la personne va avoir le sentiment d'en être écrasée. Hein? Va être écrasée, et ce qu'elle va faire, c'est que dans un premier temps, elle va se dire, bon, allez, ça va passer. Ça va provoquer... Le choc va provoquer le sentiment d'anéantissement de soi. Hein? Le choc, on va avoir l'impression... D'ailleurs, il y a des gens qui vous le disent. Je me suis senti anéanti. D'accord? En plus, derrière cette notion d'anéantissement, vous aurez 3 états possibles. Vous aurez ce qu'on appelle la sidération. Hein? On te dit, je suis resté planté là comme hébété quelques secondes. Hein? D'accord? Ça, c'est les effets trauma. Quand les gens vous décrivent la sidération, vous êtes face à un trauma. Okay, voilà. Quand les gens vous décrivent aussi le sentiment d'irréalité, comme si c'est arrivé à quelqu'un d'autre que moi, c'est du trauma. Quand la personne aussi vous vit la dépersonnalisation, d'accord, elle ne sait plus qui elle est. Vous avez les signes du trauma. D'accord? Donc, on sait comment repérer avec le dire de la personne, le vécu réel, hein, des sensations réelles, ce qui est l'activité traumatique. Et donc, face à ça, donc, vous avez un sentiment d'anéantissement de soi et de l'anéantissement aussi de la capacité de résistance. Face à un trauma, on n'arrive pas à résister, dans un premier temps, à cause des états soit de sidération, soit de dépersonnalisation, soit d'irréalité. On est, pendant un temps, quelques secondes parfois, on est hors circuit. Bon. Et puis, après, ça va entamer le sentiment d'être sûr de soi. La personne va commencer à douter d'elle-même. Et donc, quand il s'agit d'une infidélité, le conjoint, l'un ou l'autre, va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? En quoi je suis plus séduisant? Hein? La personne va douter d'elle-même. Elle avait quand même une estime d'elle-même. Finalement, le trauma va pousser à douter de soi. On n'est plus très sûr de soi. Et donc, laisser un sentiment de confusion. C'est confus. Et puis aussi, surtout, parce que quand la souffrance dure trop longtemps, et dépasse donc la capacité de la personne à y faire face, à intégrer l'événement comme tel, comme vrai. C'est pour cela que dans un premier temps, pour le deuil, on dit c'est pas possible, c'est le déni, hein? Parce qu'il faut le temps d'intégrer la réalité. Quand on n'a pas, parce qu'un trauma par définition, on n'arrive pas à l'intégrer, puisque c'est de l'impensable et de l'impensé. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les personnes vont mettre en place la dissociation. C'est-à-dire, la personne va se partager en deux. On appelle ça aussi le clivage. Elle va se partager en deux. Une partie va rester vivante et une partie va être morte. Le trauma provoque toujours ça chez les gens. D'accord ? Le trauma divise la personne en elle-même pour y faire face, pour continuer de vivre. La personne va garder une partie bonne en elle, où elle a conscience qu'elle n'est pour rien, que ce n'est pas normal, tout ce discours. Et par ailleurs, en même temps, la violence de l'événement va s'enquister dans une autre partie d'elle-même, et là, elle va être la plus mauvaise du monde, et ce sera sa faute. On va le retrouver dans les abus aussi. On va le trouver dans toute forme de violence. Vous allez avoir ce partage, ce séparation en soi. Une partie bonne et une partie mauvaise. Et la partie mauvaise va être porteuse de culpabilité. C'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas su. C'est moi qui ai fait. C'est à cause de moi. Donc, ce clivage, ce partage en deux, va introduire les gens maintenant dans la logique de la survie. On va passer de la vie à la survie. Les traumatisés sont des survivants. Et toute la Caraïbe, tous les Antilles, eh bien, on est des survivants et on a la formule qu'il faut, Kimbered. Tiens bon. Parfois, je dis, j'aimerais mieux savoir tout ce qu'ils tiennent. Quand est-ce qu'ils vont lâcher ce qu'ils tiennent? D'accord? Le Kimbered et le... c'est Kimbered pas molli. Donc, ne te laisse pas abattre, résiste. Quoi qu'il advienne, Kimbered pas molli. Parfois, on se salue comme ça, hein? Comment vas-tu? En cas Kimbered? En cas Kimbered, tout dépend si on est martiniquais ou guadeloupéen. En tout cas, c'est le Kimbered. On a ça en cas Kimbered. Je vais voir, je dis, mais qu'est-ce que tu tiens? Tu n'as toujours pas lâché ce que tu tiens dans la main? Ou je ne sais plus, hein? Vous avez remarqué? Eh bien, le Kimbé et le Kimbered, c'est une réponse au trauma. C'est une réponse, une défense contre le trauma. Vous ne le saviez pas, hein? Eh bien oui, c'est un trauma collectif. C'est un trauma collectif. Et donc, nos parents nous ont Kimbered. Et on les a vus Kimbered. Pourquoi nous, on n'allait pas Kimbered comme eux? D'ailleurs, ils nous éduquent pour Kimbered. Eh bien, on passe. Ils nous le transmettent, le Kimbered. Et quand tu n'es qu'un, quand il n'y a pas le Kimbered et tu mollis, on te dit, mais c'est pour toi, levez-toi. Doubout. Red. Kimbered. Eh bien, ça, c'est la trace d'un trauma. On ne l'a pas vécu nous-mêmes, mais ceux qui nous l'ont vécu nous l'ont transmis. Vous ne saviez pas que le Kimbered, c'était ça? En réalité, c'est ça, la défense. C'est-à-dire la partie qui a vécu le trauma, d'accord, va plus vivre et... Vous aurez donc une part mélancolique, et une Pâque joyeuse. Ça vous dit quelque chose, hein? Hein? Un fond mélancolique, un fond de tristesse qui nous contraint derrière nous. Avec une partie joyeuse. Si bien que les gens nous disent qu'on est toujours joyeux. Qu'on est courageux. Mais oui, il faut nous qu'un bébé. Et oui. En plus, la particularité de ce trauma, c'est comme pour la Shoah, comme pour les Arméniens, comme pour les Rwandais, c'est ce qu'on appelle les traumas intentionnels. Alors ceux-là, ils sont encore plus compliqués. C'est pour cela qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit, bon, il y a une limite au trauma, enfin à la violence, et ces traumas-là font partie, qui sont intentionnels, font partie aujourd'hui des crimes contre l'humanité. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les traumas intentionnels. Ce sont des violences collectives. Hein? D'accord ? Les traumas intentionnels sont des violences collectives. Elles ont cette particularité qui ont un impact psychologique sur chacun des individus du groupe. Et qui vont engendrer, bien sûr, des souffrances. Et aussi, des souffrances qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle les troubles psychiques. C'est-à-dire la folie, voilà. D'accord ? Bon. Et puis, une forme de ce qu'on appelle une sociopathie. Ou une sociopathologie. Des sociopathologies. Alors, je vais vous expliquer un peu pour nous. D'accord ? Avec la mère Potomitan. La mère Potomitan, et je vous ai dit, c'est une déesse. D'accord ? C'est l'image maternelle, pas féminine, hein, pas de la femme, l'image maternelle divinisée. Et elle a la particularité, elle est divinisée parce que elle sait tout. Elle peut tout. Elle est père et mère à la fois, ce qui est impossible, hein. Mais dans sa tête, elle est, voilà. Elle est infaillible. Infaillible. Elle n'a pas fait d'erreur, elle ne fait pas d'erreur. Tout ce qu'elle décide est bon pour l'enfant. Et si l'enfant considère que certaines choses a généré de la souffrance ou autre, mais c'est circulé, il n'y a rien à voir. J'ai fait ce que j'ai pu, je t'ai donné ce que je peux, et puis et maintenant que tu es grand, maintenant j'ai tous les défauts. Enfin bref, vous ne pouvez rien lui dire à cette mère Potomitan. Parce que c'est Dieu sur terre. Elle a toujours raison et elle a toujours le dernier mot. Et surtout, elle est d'un autoritarisme déconcertant, de toute puissance. Elle est d'un autoritarisme de toute puissance. Elle est toute puissante. Et en plus, elle se croit dotée, pourquoi je vous dis que c'est une déesse, elle croit qu'elle a le droit de vie ou de mort sur ses enfants. Et exclusivement elle. Parce que c'est mon enfant. C'est mes enfants. Et elle caresse l'idée qu'elle aurait fait les enfants toute seule. Elle en vient même à penser ça. En fait, si mon amour est tout seul, j'ai fait mon enfant seul. Depuis quand un ovule tout seul fait des enfants? Alors moi, je suis sidérée de savoir cette toute puissance et cette divine. Vous la reconnaissez bien, ceux qui la connaissent. Essayez de discuter avec elle. Essayez de lui dire que sur une petite chose assez minime, hein? Et en plus, quand on est enfant, comme elle est un cordon bleu, même si elle cuisine mal, ça n'a rien à voir. Elle est forcément cordon bleu. Donc ce qu'elle te donne à manger, c'est forcément bon. Tu n'as pas le droit de dire que c'est pas bon. Et surtout, tu n'as pas le droit de laisser quelque chose dans l'assiette. Hein. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. Comment s'échapper alors qu'elle est toute puissante, elle est infaillible, elle sait tout, elle n'a jamais tort, elle a toujours raison, mais c'est du divin. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous et qui ne fait pas d'erreur. C'est pourquoi je vous ai dit, elle est divine, c'est une déesse. Elle est la toute puissance. Et vous, en plus, elle a toute puissance du pouvoir. Donc elle est très phallique. Elle n'est pas nourricière, hein. Elle est très phallique. C'est-à-dire, elle fonctionne à la manière d'un père. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de place pour le père, puisqu'elle est père et mère à la fois. Et qu'elle détient le pouvoir de la toute-puissance. Elle est infaillible, hein, notre déesse, Potomitan. Mais tout ce qui s'attache à elle, d'accord, est de ce registre-là. Mais elle, tout son discours est un discours dramatique. Tout son discours est un discours dramatique. Elle joue tous les jours le drame de sa vie. Le drame de sa vie, c'est que les enfants ne sont pas comme elle veut. Elle oublie la différence entre l'enfant idéal et l'enfant de la réalité. Elle demande à l'enfant idéal, l'enfant de la réalité, de coller à l'enfant idéal. Le drame de sa vie, c'est qu'elle a un père, ses enfants ont un père, de temps en temps, hein, qui fait rien. D'accord? Qui fait vraiment rien. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, celui-là? Si elle n'était pas là, mais tous ses enfants mourraient. Qu'est-ce qu'on va faire de ce père? Bon, quelle place lui donner à ce père? Si ce n'est la place infantile, c'est l'un des enfants de la maison, parce que la toute-puissance et le pouvoir, c'est elle. Donc, il n'y a pas de place auprès des enfants pour un père. Puisqu'elle est père et mère à la fois. Elle est dans sa toute-puissance divine. Il n'y a pas de place. Et elle s'en plaint. Parce que la place qu'elle donne au père, c'est pourvoyeur de besoins pour elle et ses enfants. Hein? Tu n'as pas compris? Ah ouais, la banque! Si c'est un bon banquier, elle en dira du bien! Et elle lui demande même ce qu'il est. Elle sait qu'il n'a pas. Mais il faut qu'il se débrouille de trouver une solution pour lui donner ce qu'elle veut. Ah, ce soir, je vais en dire du mal, mais aussi du bien, vous allez voir. Mais mon Dieu, interdit de la quitter. Ça ne fait pas partie de son vocabulaire, le verbe quitter ne fait pas partie de son vocabulaire. Ceux qui connaissent ce qu'elle a, la déesse ne veut pas être détrônée. Elle veut rester au centre de la vie de ses enfants, mieux que Dieu lui-même. Jésus, elle la tolère. Elle le tolère, pardon. D'accord? Je me rappelle de cette femme qui disait, « Oh, chaque fois pour les mariages, que le pasteur disait, hein, l'homme quittera son père et sa mère hein, pour s'attacher à sa femme. Ah, je supporte pas ça, je supporte pas ça !» Mais je vous ai dit, vrai de vrai. Et je vous assure, elle ne le supportait pas et l'homme, elle l'avait dur. Hein. Alors que Dieu a instauré le quitter. Impossible de la quitter. Vous n'avez pas le droit de la quitter. Enfin, vous avez le droit simplement de vous éloigner un peu. Elle vous concède bien que vous puissiez vous éloigner pour partir faire vos études, travailler, avoir votre maison. Ça, oui. Ça, c'est de l'éloignement. Mais la quitter, c'est-à-dire déplacer le lien affectif comme Dieu la Bible le demande, surtout pas. On est tout de suite des ingrats. Quelle ingratitude! Après tout ce que j'ai fait pour toi! Maintenant, oui. Et il faut l'appeler tous les jours. Il faut débrouiller pour l'appeler tous les jours. Au centre de la vie des gens. Bon, de toute façon, comme elle est une déesse, Jésus, elle, c'est la même chose. Elle est le médiateur de Jésus sur terre. Elle ne laisse aucune place pour la vie. Et en plus, comme elle est infaillible, d'accord, même quand on fait naître un couple, alors là, elle a toujours son mot à dire. Sur votre couple, sur l'éducation des enfants, vos enfants sont toujours plus mal élevés. Et certaines n'abandonnent pas la chose. Certaines rentrent dans la grande maternité. C'est-à-dire, est-ce, comme les enfants sont fous, c'est quoi cette manière d'éduquer, hein? Mais moi, je vais les éduquer. Et je vais vous montrer comment ça marche. Pas moyen de la quitter. Sinon, c'est le drame. Et en plus, comme elle est très crainte, tout le monde doit la respecter, la vénérer. Gare à l'enfant qui ne le fait pas. Alors là, vous avez tous les frères et sœurs qui veulent vous faire la morale. Comment ça? Avec tout ce que maman a fait, et ceci. Elle a fait que ce qui est de l'ordre de sa responsabilité parentale. À qui d'autre voulait-elle qu'il fasse tout ça, elle qui a décidé d'être mère? C'est elle, en tant que parent, qui assure ses responsabilités de parent. Mais mon Dieu! Assumer sa responsabilité de parent, certainement pas. Il vous rend service. C'est un service que la mère Potomiteur vous rend en vous élevant, en pourvoyant à vos besoins. Et donc, forcément, attendez-vous, comme c'est un service, ce n'est pas une responsabilité qu'elle assure. C'est un service qu'elle vous rend. Alors, il faut s'attendre à retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est une dette à vie. Même Jésus ne nous a pas donné une dette à vie. Mais cette déesse, c'est une dette éternelle. Le problème, c'est comment s'attacher lorsqu'on est, d'accord, comment les enfants peuvent-ils quitter et s'attacher? Avec le côté plus dramatique, c'est que dans sa toute-puissance de déesse, ce qu'elle enlève à l'enfant, c'est le nourricier. Elle n'est pas affectueuse, puisqu'elle est phallique. Et qu'elle est père et mère à la fois, et qu'elle épouse la fonction paternelle. Donc il n'y a pas de place pour le père, hein? Bon, il n'y a pas de place. Parce qu'elle l'occupe. Et donc, le prix à payer pour les enfants, c'est se passer d'affect. Les enfants doivent se contenter de la déclaration qu'elle fait de temps en temps, « J'aime tous mes enfants pareils. » C'est qu'il est un impossible. Cette déesse n'aime jamais ses enfants pareils. Elle donne des places à chacun. Et la place, pour l'obtenir, il suffit de faire tout ce qu'elle veut. Vous avez la meilleure des places. Enfin bref, vous avez un cadeau empoisonné. Je reviens donc des Antilles et j'ai eu connaissance et j'ai échangé avec cette personne. D'accord, hein? On ne me l'a pas rapporté. La personne qui m'a dit, il faut que tu la rencontres quand même, elle ne m'en a pas dit grand-chose, mais elle m'a dit, elle a besoin qu'on l'écoute. Alors, je vais écouter, enfin, je prends on a rendez-vous, enfin, même pas. On se retrouve assise à la même table et elle me raconte ceci. Son fils aîné, qui a maintenant 22 ans, a toujours marché avec le Seigneur, dit-elle. Vous connaissez l'expression, marcher avec le Seigneur. Bon. À 22 ans, il tombe amoureux d'une jeune fille qui n'est pas dans le Seigneur. Répression immédiate. D'accord. Donc il marchait avec le Seigneur. Il était le préféré. Maintenant que dans la communauté en plus, on se dit, elle n'est pas chrétienne et tout le reste, vous connaissez un peu, c'est. Hein? Bon. Eh bien, elle a décidé de ne plus l'aimer. Donc, elle l'a mise de côté. Maintenant, elle s'intéresse au cadet. Parce que maintenant, le cadet marche avec le Seigneur. Et en plus, elle se plaint de ce que l'aîné, maintenant, refuse de l'aider parce qu'elle, dans son travail, elle l'aidait à transporter les choses et tout ça. Il dit non. J'ai dit, bien, il est cohérent. Il vous rend la monnaie de votre pièce. Si vous en rendez-vous compte, eh bien, cet exemple, on peut en prendre plein. Lorsque l'enfant ne rentre pas dans l'idéal que la mère a eu pour lui, la mère le rejette l'enfant violemment. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu veux qu'elle soit. Alors si en plus, tu as le malheur de ressembler à ton père, tu aggraves ton cas. Que tu sois fille ou garçon, hein? Vous entendez dire à longueur de journée. Ouais. Vous ramassez toute mauvaise manière, papa. Et elle ne s'arrête pas là. Et elle commence à dire du mal du père, mais avec une violence épouvantable. À croire que ce père en question, c'est pas l'homme dont elle était amoureuse. Vous avez vu le clivage? Les émotions et la pensée sont clivées. D'ailleurs, elle vous aime par la pensée et la déclaration des mots. Mais elle dit vous aimer, mais elle peut vous faire des actes horribles si vous ne répondez pas à son désir de puissance. Et ça peut aller jusqu'à vous renier. Vite fait, bien fait, hein. Et quand on est l'enfant préféré, alors là, j'ai dit, c'est un cadeau empoisonné, hein. L'enfant préféré ne peut vraiment pas construire sa vie, hein. C'est un interdit, hein, de changer. Parce que s'il change, forcément, ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas d'elle. C'est Madame Ao, ta femme, qui te monte la tête. C'est ton mari, hein, qui te monte la tête. Ah, c'est tes copines. Ah, depuis que tu fréquentes un tel, depuis que tu fréquentes cette copine-là. Interdit. Ça ne peut pas être de ton propre jugement, en disant que lui poser des limites parce qu'elle va trop loin. Ah non, non, non. Tu es toujours sous influence. Si l'enfant préféré change, l'explication qu'elle donne, c'est que sous influence de quelqu'un d'autre qui a plus de pouvoir qu'elle, tu changes. Tu t'éloignes d'elle. Pas de place. Pas d'affect. Alors, quand vous êtes nourrisson, un peu d'affection, bien sûr. Elle joue avec vous. Oh, dès que l'enfant démarre la marche, vous l'avez vu, et qu'il commence à se balader, à toucher les choses, attention, ouh, ça commence à aller mal pour lui. Et je ne vous parle pas quand il rentre pour la première fois à l'école maternelle. Il a 3 ans. Ah ben c'est terminé les affects. Hein. Terminé. Il n'y a plus d'affects. Il n'y a plus de gentillesse. Il n'y a plus de gestes tendres. C'est des remontrances. Ne fais pas ci. Fais ça pour moi. Tu fais pas ça. Range ça. Et puis le mari, c'est pareil. Hein. Et ça n'en finit pas. On peut se dire, bon, allez, elle commence ça le premier jour. Bon, mais c'est tous les jours. Tous les matins, elle a une liste d'injonctions à faire, à donner à tout le monde. Puisqu'elle représente la loi, elle représente la référence absolue, elle représente le modèle, et quand elle vous dit « Moun pas qu'a fait ça !» Alors elle vous a tout dit. Impossible, avec elle, la déesse, de mettre en place la loi de vie de Dieu, c'est que les enfants doivent quitter pour s'attacher et avoir un devenir. Chez nous, nous connaissons les belles-mères. D'accord, c'est une ferme. Hein? En plus, comme vers la quarantaine, alors je reviens des Antilles en plus, alors chaque fois que j'y vais, bon, je connais cela depuis longtemps, hein. Bon, j'ai eu faire. Mais là, quand j'y vais régulièrement, et chaque fois que j'y vais, on me raconte encore des épopées. Je n'ai pas fini. D'accord? Parce que, avec tout ça, vers la 40, 50 ans, elle va faire sa conversion. C'est-à-dire, elle surinvestit la spiritualité. Il n'y a plus de place pour le mari, hein. Le mari, c'est ceinture au niveau de la sexualité. C'est terminé. Alors, que devient s'attacher? Pourtant, s'attacher sous-entend qu'il faut construire un lien. Comment, d'accord, construire un lien lorsque vous avez une déesse qui réclame sans cesse d'être regardée, d'être au centre de la vie de l'enfant? Comment construire un lien sans que l'enfant ait un sentiment de trahison, sans que l'enfant se sente déloyal, sans que l'enfant ne se culpabilise pas? Et quand tu ne te culpabilises pas, elle fait tout hein, pour te culpabiliser. Et quand la culpabilité ne fonctionne plus, alors là, alors elle fait tout pour porter atteinte à qui tu es. Elle dénigre qui tu es. Elle dénigre tes dons. Elle dénigre qui t'a fait. Elle te dénigre physiquement. Elle te dénigre sans cesse. Vous l'avez vu? Je suis en train de vous parler d'une mère, hein? Avec ça. C'est pas une mère. C'est un tyran. Alors, ce qu'il y a de pire, c'est que on en est victime soi-même, et dès qu'elles ont des enfants, elles reproduisent la même chose. Elles récupèrent les mêmes droits, hein? En tout cas, là, je parle que de la maternité. Or, chez le féminin, il y a toute la dimension de femme. Ça commence à l'intéresser un peu ces jours-ci. Enfin, un peu mieux. C'est-à-dire, en dehors de la maternité, il n'y a rien d'autre. Et puis, c'est une maternité particulière. Hein, parce qu'en général, la grand-mère s'y mêle. Donc, c'est une double. Hein, et il y avait une pratique qui consistait à faire en sorte que l'aîné soit donné à la grand-mère, qui, soudainement, quand l'enfant grandissait, lui disait « Aïe vrai maman, tu vas chez ta mère !» Vous aviez une succession de rejets ainsi. La mère potomitan rejette son enfant parce qu'il ne rentre pas dans sa réalité idéale. Ce n'est pas à elle de s'adapter à l'enfant réel. C'est l'inverse. C'est l'enfant qui doit s'adapter à son désir de toute puissance. L'acquitter est toujours une transgression. Parce qu'elle demande d'ailleurs, elle détourne à son profit ce que dit la Bible. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. c'est-à-dire vénère-les. Alors que honorer signifie donner le juste poids. D'accord ? Donc, il faut les peser. Bon, hein, c'est ce que veut dire le mot honorer, qu'il faut peser, hein, et évaluer ce que tu as reçu de bon, de moins bon, de franchement mauvais, pour que tu aies des jours heureux sur la terre. Ça, c'est un interdit. Donc, alors là, demander pardon à ses enfants? Jamais! Et certaines vous le disent, vous l'affirment, jamais. Je préfère mourir. Ah, vous avez encore vu la force de l'orgueil. Hein. Je dis, bon, on devrait quand même réfléchir que les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants ne sont pas notre propriété, nous dit le Seigneur. C'est des emprunts que le Seigneur nous donne, nous fait, parce qu'on devra rendre des comptes pour nos enfants. Et Jésus met en garde la manière dont on traite les enfants. Et le mot qu'il utilise ici à ce moment-là, c'est le païs ou païdon, ça couvre de 4 jusqu'à l'âge adulte. Et Jésus dit de faire attention, parce que l'envoyé de Dieu est devant le trône pour eux. Les parents, la mère antillaise n'a pas du tout, même si elle est chrétienne, elle occulte le fait, le père aussi, hein, les deux. Mais parce qu'ils vont devoir rendre compte par rapport à leurs enfants. David nous le dit dans le psaume 139, que c'est Dieu qui a voulu qu'on existe, et non pas nos parents. Et puis, j'ai remarqué aussi une chose, hein. C'est pour le garçon. En dehors du fait qu'il y a une éducation différente pour le garçon comme par rapport à la fille. Le garçon est l'instrument de son désir, de séduction. Donc, à travers lui, d'accord, hein, elle en tire une certaine fierté qui soit volage. Mais oui, hein? Tu mets tes poules en cage, mon coq. Voilà, j'ai lâché mon coq dans la vache-cour. Bon, alors tes poules, tu as intérêt à les rentrer en cage. Hein? D'accord? Les mettre en cage. Hein? À défaut de rentrer dans sa propre vie de femme, dans sa propre féminité, d'accord, surinvestissant la maternité, elle instrumentalise son fils, ses fils, d'accord, comme objet de séduction qui fait sa fierté, donc ça lui permet de vivre la séduction, d'accord, par personne interposée. Son fils. Alors, ça va avoir un effet sur la vie affective du fils qui, pour garder cette place, je vous l'ai dit, devra être en admiration devant elle, l'adorer. Je m'y adorais parce que le mot n'est pas trop fort. On adore une déesse. D'accord, hein? Bon. Et puis certaines prétendent pouvoir mieux choisir celle qui convient à leur fils. Et puis surtout, la belle-fille est priée de ne pas trop vouloir prendre de place, hein, parce qu'elle, elle était là avant, hein. Je vous assure, elle était là, hein? Elle était là avant elle. Donc il n'y a pas de raison pour qu'elle fasse de la place pour elle. C'est hors de question. Il faudra compter avec elle. Surtout, elle va produire la chose suivante, avec la conséquence maintenant pour le couple et pour les enfants, parce que ça va ensemble, c'est qu'elle va... C'est dommage. Elle aura tendance à demander à la fille de faire et le garçon ne fait rien. Elle fait tout pour lui. C'est la meilleure façon d'échouer votre couple, c'est ça. Alors, ça existe déjà dans les cultures, dans la culture, hein, plus ou moins. Alors, chez nous, c'est encore accentué. Au détriment du couple. Vous comprenez pourquoi il est impossible de s'attacher et qu'il est impossible de construire et de réussir son couple. Il n'y a pas de fatalité. On a besoin d'appliquer la loi de vie de Dieu, placée avant la chute. Alors qu'Adam et Ève n'ont pas de père et de mère, c'est quand même intéressant. Les enfants devront quitter. Et derrière le quitter, Dieu en fait instaure l'interdit de l'inceste. Donc, comme il ne peut pas quitter, je parle de l'homme, hein, bon, vous allez voir, les deux, c'est un problème, hein. Mais ça va pas. Je parle du problème qui va se répercuter dans le couple, dans le lien du couple, pour s'attacher. Donc, comme on ne peut pas la quitter, au niveau affectif, réellement, donc, vous avez la chose suivante. C'est que le maternel va rester l'accrochage du garçon. Et sa femme, ce sera une mère bis. Une mère de substitution. Il verra sa femme comme une mère. Hein. Le problème, c'est que dans la relation parent-enfant, il y a l'interdit de l'inceste. Eh bien, la sexualité ne pourra se vivre qu'à l'extérieur. Et là, c'est quand même grave. Et ça fait partie de toutes les souffrances que j'entends à droite, à gauche. Et comme on lui a appris à ne rien faire, hein, d'accord, et qu'il est, il est accroché à la mère, hein, donc il reste toujours le petit de sa mère. Donc s'il est le petit de sa mère, ses enfants, il ne peut pas s'en occuper, puisqu'il est le petit de sa mère. Or, ce qui est la spécificité masculine, d'accord ? La porte d'entrée du masculin, c'est le faire. Le masculin fait pour être. Bon, la porte d'entrée du féminin, c'est l'être pour faire. Donc, elle a besoin de savoir qu'elle a une place exclusive pour investir quelque chose dans le lien affectif. Bon, mais, et donc, sa demande de ce, par rapport à son mari, c'est de faire. Mais on a dit au mari, tu peux faire partout, en dehors, rendre service à tout le monde, sauf chez toi. Oh, sa porte d'entrée, c'est du faire. Dieu a bien fait les choses. La demande de la femme, c'est que le mari fasse. Avec elle. Bon. Mais j'ai pas le tableau. Ah tiens, je peux récupérer le tableau parce que il faut que je vous montre un peu le problème. parce que ça nous permet, on voit, qu'en vous montrant la difficulté, vous allez vous-même trouver la solution pour en sortir. Je suis obligée de parler au micro pour l'enregistrement, je suppose. D'accord ? Bien. D'accord. Je vous donne les portes d'entrée créationnelles, c'est-à-dire naturelles, celles que Dieu a trouvées merveilleuses de donner à chacun. Bon, pour, en termes de priorité de besoin de construction, chez l'homme, la porte d'entrée, c'est le sexe. Ensuite, l'épaule, c'est-à-dire l'écoute, et le bras, c'est-à-dire le soutien en dernier. Ça, bon. Chez la femme, la porte d'entrée, c'est le bras. Elle recherche d'abord le soutien. Ensuite, l'écoute. Et le sexe en dernier. C'est-à-dire, ce sont les trois besoins dans le lien du couple. Bien. Elle, elle a besoin de savoir qu'elle est exclusive, d'accord, pour faire, parce qu'elle est pas, elle a ce qui l'intéresse chez la femme, c'est le lien. Elle est préoccupée par le lien, la relation. Bon. Chez l'homme, l'homme a besoin de faire. Il ne faut pas demander à un homme de ne pas faire. Pour être. Et lui, sa porte d'entrée, c'est la séduction adossée à la sexualité. Ici, il y a de la sexualité, mais fantasmée. Bon, ça, c'est les portes naturelles de Dieu, hein, ce que je vous dis. Hein. Bon. Et le problème de l'influence de l'éducation par rapport au lien. Bon, c'est que la femme va demander le soutien, c'est-à-dire va interpeller le faire de l'homme. Puisque naturellement, il fait, c'est sa porte d'entrée. Lui ne va pas répondre au faire. Donc, elle va en souffrir. Hein. Et sa réponse, ce sera ici, sur la porte d'entrée de l'homme. Je n'ai pas ma porte d'entrée, tu n'as pas ta porte d'entrée non plus. Alors, l'homme, parce qu'il n'y a pas de sexualité, il fait encore moins et il aggrave son cas. Sans le savoir. Mais cette disposition-là est liée à la... vraiment, ce que je vous dis est juste. Hein. C'est lié, hein, ces préoccupations. Pourquoi ici, c'est en dernier? Parce qu'on s'est aperçu que chez la femme, dans la sexualité, c'est la zone de la peur qui s'active d'abord. Pas chez l'homme. Chez l'homme, c'est la zone de l'activité, c'est-à-dire du langage qui se décroche. Bon. Alors, ça tient simplement à la morphologie et au placement des organes sexuels. Vous avez une sexualité intérieure, solidaire du corps, cellulaire du corps, donc un rapproché du corps. Et chaque fois qu'on se rapproche de ma bulle, d'accord, le cerveau s'active parce que trop près de moi, c'est un danger en langage du cerveau. C'est pour cela qu'elle a besoin du lien, que de qualité. Parce que ça active naturellement la zone du cerveau de la peur. Naturellement. À cause de ce phénomène naturel. Chez l'homme, la sexualité, l'organe sexuel est extérieur, accroché au corps et pas solidaire du corps. Et il paraît, selon les hommes, ce qu'on m'a dit, parce que ça c'est un impensé pour les femmes. Qu'en plus, il y a le corps et l'organe génital. Donc, chez l'homme. Hein, et qu'il n'obéit pas au doigt et à l'œil. Si bien que certains lui donnent un surnom, Popol. Ce qui est pour ça pour une femme. Elle dit comment ça? C'est pas vrai, hein? Il va pas me raconter des histoires, hein? Hein? C'est pas possible. Il est hein, que son organe lui échappe hein, tout le temps. Oh. C'est un impensé pour une femme dont la sexualité est solidaire du corps. Et c'est un impensé pour les hommes. D'accord, la question du lien, puisque la sexualité est externe. Vous avez une sexualité interne et externe. Eh bien, ça va marquer la façon de construire du lien. C'est pour cela que pour un homme, être attaché, c'est être présent à la maison sans communiquer. Si je suis là, si je me suis marié avec toi, hein, je suis là. Mais pour la femme, c'est pas suffisant. Il faut du lien. Donc, oh, n'oubliez pas que le quitter est lié à s'attacher. Ça veut dire qu'il faut construire du lien. Or, avec cette dissociation affective, c'est-à-dire l'enfant est sevré trop tôt au niveau des affects, c'est-à-dire du toucher, de l'expression du ressenti, qu'on lui demande de refouler d'ailleurs, et en premier la peur, puisqu'il faut qu'il arrête, hein. Bon, et il faut quimber, hein. D'accord? Le quimbé dissocie la pensée des émotions. Le quimbé, c'est un refoulement du monde émotionnel. C'est une anesthésie du monde émotionnel. C'est pour cela qu'on peut exercer parfois sur les enfants une violence inouïe. Les corriger avec exagération. Si je devais mettre toutes les traces, ça en fait partie. Et surtout, la trace, c'est que ça a laissé une violence dans le lien. Les liens dans la relation sont trop violents, trop agressifs. La conséquence du trauma, on a vu que le trauma produit une séparation, une partie enkystée, une partie fait rentrer dans une loi de survie. Cette loi de survie, elle a la particularité pour continuer à vivre de dissocier la pensée des émotions. Les émotions sont anesthésiées. Donc, on aime les enfants avec sa tête. Et pas suffisamment avec d'affect. Donc, les garçons comme les filles, malgré tout ce que je vous ai dit, sont privés d'une chose, c'est d'affect. C'est-à-dire de nourricier maternel. Elle ne peut pas donner puisqu'elle est dans la posture masculine. Elle a récupéré la place du père. Et son territoire affectif reste vide. Alors parfois c'est une grand-mère qui la récupère avec parfois tous les problèmes que ça pose. Mais le territoire affectif et émotionnel, fait de bienveillance, de compréhension, de tolérance vis-à-vis, par exemple, de l'enfant, de sa maladresse et tout ça, est complètement déserté. Donc je rentre en couple en pensant que mon conjoint va pouvoir me donner de l'affect, alors que l'autre aussi, elle en est privée. Oui. Vous êtes-vous jamais demandé, parce qu'on fait cette remarque, hein, que quand l'un des deux épouse un Européen, le lien est différent. Vous avez remarqué? Parce que c'est un lien affectif qui autorise l'affect. Alors que dans la relation, entre Antillais, si tu montes ton affect, tu es considéré comme une faiblesse. Et tu as peur quand on abuse, hop, tu gardes. Parce que la mère Potomitan, elle domine tout. Et oui, ça te renvoie le miroir du même procédé. Et donc, ça ne t'autorise pas à montrer de l'affection. Tout d'un coup, l'affect est considéré comme une marque de faiblesse. Et l'autre en face, il faut se protéger. Parce que comme il le voit comme une marque de faiblesse, certains peuvent en abuser, associer la marque de faiblesse, enfin, de la marque d'affect à la faiblesse. Si tu es un faible, si tu montes ton affect, garçon et fille, hein, ici, il n'y a pas de distinction. Hein. Donc, la mère va pas montrer trop son affect, parce que c'est marque de faiblesse. La femme non plus. Bon. Mais arrête de me toucher, putain, arrête de me toucher comme ça. J'assure, hein. On déteste le toucher. Puisque le corps, quand il est touché, c'est souvent pour frapper, pour violenter le corps. Donc on ne veut plus. Mais vu la trace demeure. Et on inflige parfois aux enfants des punitions. Quand vous lisez le Code noir, les punitions, vous retrouvez qu'on fait certaines fois aux enfants, comme dans le Code noir, hein. Par exemple, et pas si loin que ça, mon père a connu des punitions de ce type-là. Hein. Les mettre à genoux au soleil avec des cailloux dans la main ou des... Hein, hein? Des râpes, des punitions, des sanctions. Donc, si l'événement n'est plus là, le trauma est toujours vivace, est toujours présent, et va agir dans le lien, et va faire un lien blessant. Il va intervenir comme lien blessant. Puisqu'on ne peut pas mettre de l'affection dans le lien parce que c'est signe de faiblesse, puisqu'il faut kimber et kimber raide. Donc il faut rester dissocié. Puisque si tu n'es pas dissocié, la seule façon de rester de kimber, c'est d'anesthésier un peu le monde émotionnel et continuer à faire vivre les choses que dans la pensée. Et pas dans l'émotion. Or, l'amour a besoin d'émotion. L'amour a besoin d'actes. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des actes d'amour. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, il a mis un acte. Il a fait un don. D'accord ? Et l'une des conséquences, à la fois de l'interdit de cette mère qui prend toute la place, d'accord ? Qui est une déesse, et qui interdit de la quitter, fait qu'on s'accroche au nourricier parental, et on rentre dans du conjugal par le biais parental. Mais le parental, le lien parental, lui, déjà, l'un des conjoints commence à dire à l'autre, tu devrais pas faire ci, pourquoi tu fais ça, on contrôle comme la mère. Comme si le conjoint était le parent. On le reprend comme on fait, comme un enfant. Donc, on accroche du parental, ça. Mais le parental est frappé d'interdit. Alors, et quand il est frappé d'interdit, c'est la sexualité qui est frappée d'interdit. Elle ne peut se vivre que dehors. Du couple. Avec tous les problèmes que ça pose. Or, le quitter, c'est pour s'attacher. Mais s'attacher, c'est accepter d'exprimer ses émotions et de ne pas faire du conjoint son premier ennemi. Alors ça, c'est terrible. D'ailleurs, la mère Potomitan vous leur rebat les oreilles. Personne ne peut vous aimer comme elle. Ça n'existe pas. Puisqu'elle est infaillible. Bon. En plus, il faut se méfier de l'étranger. L'étranger. Et l'étranger en question, c'est votre conjoint, hein, je vous assure. Hein. Hein? C'est pas un inconnu, hein. L'étranger dont il faut se méfier, c'est de votre mari, de votre femme. Parce qu'elle peut toujours vous trahir. Mais tu peux avoir, plusieurs femmes, plusieurs maris, mais tu n'auras qu'une mère. Alors, c'est vrai, ce qu'elle apporte aux enfants, C'est l'endurcissement par rapport à la vie. On apprend très tôt à être autonome, à faire face. Et l'une des particularités des gens de chez nous, c'est l'idée qu'on peut vivre partout et s'adapter. Dans la tête des Antillais, ils sont capables de vivre n'importe où, on le dit, et s'adapter. Parce que justement, on a une éducation à l'adaptation. D'accord ? On nous a appris, dès notre jeune âge, à nous adapter et surtout à ne pas reculer devant le danger. D'accord ? Qu'on soit fille ou garçon. Hein? Il faut foncer dans le tas. Alors que c'est elle. Elle nous apprend à foncer dans le tas. Et parfois, c'est bien utile de faire face avec courage aux événements de la vie et ne pas se décourager et prendre son mal en patience, et etc., etc., etc. Ça, c'est vrai. Elle apporte une éducation d'autonomie précoce et entraîne à faire face aux événements de la vie. Mais à côté de ça, il y a tout ce qu'elle peut, tout ce dont on prive sur le lien affectif. Mais on comprend bien que l'esclave n'avait pas le temps de penser à ses émotions. Il fallait faire face à la violence. On comprend qu'elle puisse entraîner son enfant à faire face à la violence, sachant, d'accord, ce qu'il est amené à vivre une fois adulte. Dès l'âge de 10 ans, ils étaient mis dans les plantations, vendus. Donc, il fallait bien se protéger de trop se lier, puisque, on l'a vu, la précarité du lien du couple, hein, ça dépendait du maître. Donc, il y a une culture où on s'attache très peu aux choses. Hein. Ça nous a laissé une trace, c'est qu'on crée du lien, tant qu'on est présent, on crée du lien, une fois qu'on est parti, on est parti. D'accord ? On tourne la page, on n'est pas nostalgique souvent des choses. Hein, on se détache très facilement. On se détache très facilement. Puisque le trauma va produire ce clivage avec une partie souffrante qui est réveillée chaque fois, suivant les circonstances, et une partie encore vivante qui continue, elle, à faire son chemin et à se développer. Mais avec une difficulté, celle de créer du lien non agressif, sans se sentir attaqué par l'autre, sans se sentir instrumentalisé par l'autre. Donc tout le travail qu'il y aura à faire pour soi-même, on le verra la prochaine fois, c'est de s'autoriser à réconcilier la pensée et les émotions. Dans le lien. Et donc, nous avons une intention de Dieu et par rapport à ça, la construction du lien. Et donc, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons engager cette confiance en Christ pour redonner cette légitimité à la construction du lien. Puisque le lien, on a besoin du lien pour vivre. Et on s'aperçoit, comme le lien d'attachement n'arrive pas à prendre racine, et pour cela, on a besoin de poser des limites à la mère tout petit mutant, à enlever la déesse à sa place et mettre un peu Christ un peu à la place de la déesse. Hein. Bon, et s'autoriser un peu ce chemin-là. Mais comme on a, ça se traduit par une difficulté. Je vais vous montrer. C'est la difficulté à jouer avec nos enfants. Nous avons du mal, que ce soit la mère ou le père, à jouer avec nos enfants. On les fait jouer, et quand parfois on considère qu'ils jouent un peu trop, hein, qu'ils devraient bien faire une tâche au lieu de jouer, ça c'est du peur perdu. Hein? Alors que le jeu est l'outil dont l'enfant a besoin pour construire, pour se construire et gérer ses angoisses par rapport à la vie. D'accord ? Et nous avons beaucoup de mal à jouer avec nos enfants. Or, jouer avec ses enfants, c'est une façon aussi de se réconcilier avec l'émotion en nous. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on joue avec nos enfants qu'on perdra notre autorité. Il suffit d'être ferme dans ce qu'on dit, on n'est pas obligé de crier. D'accord ? Il suffit de monter de la fermeté, c'est tout. À dire à l'enfant, non, je t'ai dit non, c'est pas la peine d'insister. On n'est pas obligé de se fâcher. D'accord ? On n'est pas obligé d'avoir peur quand on joue avec notre enfant qu'il nous déborde. Il ne nous débordera jamais dès lors qu'on est quelqu'un de cohérent. Dès lors qu'on a une cohérence entre ce qu'on dit et leur promet et nos actes, alors l'enfant nous... Voilà. Dès lors que nos actes aussi ne sont pas des actes violents. D'accord ? Parce que envers nos enfants, je le vois au supermarché. L'enfant touche un produit, le père dit tu laisse ça. Mais quel âge a-t-il ? Il a 2 ans. Il est tenté par tout ce qu'il voit à 2 ans au supermarché. Et bien la deuxième fois, il lui passe une sacrée claque, vite fait, bien fait. Il pense-t-il. Mais ce n'est, voilà. Mais ça ne le construit pas sur mon émotionnel, si ce n'est de cumuler un sentiment d'injustice, de cumuler de l'agressivité qu'il ressort assez facilement dans ses relations. Or, pour que nos liens nous construisent, il faut que nos liens soient bienveillants, gratifiants, c'est-à-dire qu'ils nous reconnaissent ce que nous pensons. Alors nous avons, pour terminer, avant de terminer, la mère Potomitan, le garçon et la fille vont s'identifier à elle pour se construire. Pas seulement la fille, mais le garçon. Et on va avoir ainsi dans le couple, le conjoint, c'est-à-dire la femme antillaise, ne voudra pas entendre l'altérité, la différence dont lui parle son mari. C'est pas vrai. Parce qu'elle ne le vit pas, elle, ça ne peut pas exister chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est la mère Potomitan. N'existe que ce qu'elle analyse tout à partir de son vécu. Si je ne l'ai pas vécu, j'entends pas que l'autre puisse avoir un vécu différent du mien, forcément il triche. Forcément, c'est pas vrai. Jusqu'à ce qu'elle vit à son tour la chose. Alors, quand elle la vivra à son tour, elle va dire, ah oui, tu m'avais dit ça, l'autre avait raison, mais il n'y a pas cette bienveillance d'emblée. Puisque tout est lu à partir d'elle. Elle est dans la toute-puissance, elle est Dieu sur terre. Eh bien, les deux ont tendance dans le couple et dans la relation aux enfants à reproduire cette modalité. Elle pense qu'elle est capable de comprendre comment vivre un masculin. Or, la puberté va mettre une différence fondamentale avec la production de 2 hormones sexuelles différentes, qu'on va trouver chez les deux, mais qui est très différente, et vous aurez une vision masculine du monde et une vision féminine du monde. Et tout ce qui n'est pas compris par le féminin, comme la mère Potomitan, tout ce qui n'est pas comme elle, elle critique et elle dénigre. Et elle l'interprète comme de la mauvaise volonté, comme elle l'interprète négativement. Vous aurez la même chose. Si bien que chez le masculin, et ça perd les hommes, entre guillemets, d'accord ? Quand je dis ça perd les hommes, c'est-à-dire, ça suscite le départ de leur femme. D'accord ? Il fait pareil. Il considère lui-même qu'il peut juger de lui-même ce qui est bien pour sa femme, d'accord ? Et n'entend pas ce qu'elle dit de la différence et du danger du lien. Elle le prévient toujours quand le lien est en danger. Il n'entend pas. Quand elle se tait, il pense qu'elle s'est accoutumée, qu'elle s'est habituée, qu'elle s'est adaptée. Alors que dès lors qu'elle se tait, c'est qu'on est détrôné, elle n'attend plus rien du lien, elle a décidé de s'en aller. Messieurs, vous avez tout intérêt, tant que votre femme vous dit, elle vous donne une direction pour que le lien demeure. D'accord ? Quand les hommes n'entendent pas, parce qu'ils sont persuadés. Et ça, c'est la mère Potomitan qui fait ça, puisque là, elle est phallique. Donc, elle est infaillible. Lui, il sait tout. C'est des répétitions de la mère Potomitan. qui se fait au détriment du lien et surtout de la reconnaissance et de l'accueil de l'autre. Or, dans un couple, on a besoin d'être reconnu, entendu et accepté. Il y a beaucoup de mimétisme dans la culture. Si je vis dans la culture, ce sera comme ça.
Par exemple, si dans la fratrie, il y a deux enfants qui ont été élevés avec la grand-mère, mais pas la personne.
Mais en général, la grand-mère, parfois, elle est potomitant. Alors, tu vous... Mais oui. Mais oui, parce que dans ces cas-là, ça veut dire que la mère était incompétente aux yeux de la grand-mère. Mais c'est ça. C'est ça, l'incompétence. T'as trop d'enfants, tu vois pas. Mais c'est bien ça dont je parle. Mais oui, pour vous. Mais pour la grand-mère. D'accord. Elle est incompétente. La grand-mère avait le droit d'avoir autant d'enfants, mais pas sa fille. Ni sa belle-fille, enfin. L'experte, c'est elle. Donc, c'est ce que j'ai appelé la grande maternité. Donc, elle va récupérer les aînés, mais quand elle en a deux, elle va y être, d'accord, en oubliant qu'elle a pris de l'âge, parce qu'elle confond la réalité psychique où elle a 20 ans de moins dans sa tête et la réalité corporelle où elle se fatigue vite. Donc, elle ne pourra pas prendre 3 ni 4, elle va les laisser là-bas, puisque de toute façon, avec les deux, elle en a déjà assez. Mais oui, bien sûr, absolument. Bien sûr, la mère potomitant va donner cette posture infaillible à l'un et à l'autre. Et ce qui va être perdu, c'est le lien. Et ce dont on souffre plus, c'est la difficulté à s'attacher ou est la difficulté de construire des liens de qualité. Et ça tient à l'histoire. Et on a l'illusion, comme la mère potomitant, elle a besoin de personne pour exister. La mère potomitante dit qu'elle a besoin de personne, hein. Elle peut se débrouiller, elle est toute puissante. Or, c'est pas vrai. Elle sait tout et elle a dit, ouais, hein. Or, c'est pas vrai dans la réalité. D'accord? D'ailleurs, elle peut pas être père et mère à la fois. Puisque les fonctions parentales, c'est pas les rôles. Les fonctions parentales sont liées à la différence des sexes. C'est inconscient, c'est basé sur du naturel. C'est ça la fonction. Donc, elle ne sera jamais réellement un père réel. Parce qu'elle sera un père version mère. En désinvestissant le nourricier qui lui appartient. Tout le travail maintenant, c'est de repenser volontairement la vie, le lien. D'accord? Et la prochaine fois, on verra comment volontairement mettre en place, faire des petits exercices pour passer l'étape de la gêne, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, toute chose nouvelle qu'on apprend à faire, donc quel que soit le domaine, on se trouve un peu maladroit. Mais ça passe très vite. Il faut proposer quelque chose de différent dans le lien. Il n'y a pas d'autre réponse. Si si le trauma était collectif, c'est individuellement qu'on s'en sort. D'accord? Voilà, c'est le temps aussi des remarques et des questions. Oui, le trauma collectif.
Mais je constate aussi aujourd'hui, en fait, en vivant en métropole depuis quelque temps, qu'en fait, qu'il y a ce même comportement qui apparaît chez des métropolitains.
Lesquels ?
Par rapport à la mère qui est justement qui devient potomitante sans trauma. Enfin, il y a un trauma peut-être quelque part, mais
alors,
c'est lequel ?
Justement, c'est lequel ? Quels sont les éléments qui va redistribuer ? Parce que ça, c'est une redistribution de la définition de la famille. Quels sont les éléments qui vont emmener à la redistribution de la famille ? Non, c'est un phénomène récent. parce qu'il note un phénomène récent. Il y a deux choses qui sont apparues. C'est la redéfinition du concept de famille. D'accord ? Et c'est la crise économique à partir des années 90 particulièrement qui va être très très forte parce qu'elle va s'amorcer depuis 75 à peu près. Mais ça va gagner tous les domaines, y compris les cadres. Hein ? Avant, on a eu les mineurs. Enfin, petit à petit, ce phénomène de chômage va... gagner un peu les différentes couches de la société, hein, avec l'élément suivant. Du coup, à partir des années 90, on va redéfinir le concept de famille. Avant cela, la famille, c'était papa, maman, les enfants. Les pères et les mamies et les papis n'avaient pas leur mot à dire. Ils étaient mis de côté. À partir du moment où le chômage s'est accentué, et on a vu les phénomènes de désocialisation avec le licenciement, par exemple. Donc, avec une structure familiale aussi étroite, dès qu'on perdait son emploi, on se retrouvait très vite à la rue. Et on s'est aperçu que certaines cultures, comme les Asiatiques, comme les Maghrébins, comme même les Antillais, les Africains, on les voyait très peu à la rue. Parce que la notion de famille était plus élargie. Il y avait papa, maman, grand-mère, peut-être tati, cousin, avec les avantages et les inconvénients. Bon, petit à petit, d'accord, mais oui, avec les avantages et les inconvénients. Et peu à peu, à partir des années 90, la réflexion a été réintroduisons les grands-parents. Si bien qu'on a même institué la fête des grands-mères, pour le marquer, pour lutter, pour faire. Et on va, peu à peu, réintroduire les grands-parents dans la structure familiale. D'accord ? Mais c'est des causes économiques. Puisque qui possède les sous maintenant ? Les grands-parents. C'est le pouvoir par l'argent. Tant que on avait de nouveau, on avait la chose suivante, c'est que les enfants, leur situation était financière était bien meilleure que celle de leurs parents. Quand on a eu ça, on a laissé derrière soi les grands-parents en tant que personne influente du groupe. Les grands-parents devaient demander l'autorisation. D'ailleurs, aller chez papy et mamie, ça se faisait un peu, mais pas beaucoup, parce qu'ils n'avaient pas le droit de regard. D'accord, hein? La belle-mère, il fallait la tenir bien au loin. Hein? D'accord, hein? Il fallait tenir la belle-mère au loin pour qu'elle ne se mêle pas de ceux qui ne le regardent pas. Hein? Et petit à petit, la crise économique a développé une forme de solidarité dans la famille et on a réintroduit les grands-parents. Et aujourd'hui, les grands-parents ont cette place parce qu'ils possèdent l'argent. Quand les enfants... D'ailleurs, ils vivent un peu plus longtemps. Maintenant, les enfants ont besoin d'abandonner l'héritage, hein, parce qu'ils vivent trop longtemps que les enfants ont le temps d'être un peu vieux. Donc, ça passe aux petits-enfants. Donc, c'est les grands-parents qui aident les petits-enfants à l'acquisition d'un premier logement ou autre. À partir du moment où ils ont du pouvoir par l'argent, dans une société où le pouvoir, c'est l'argent. D'accord ? On voit apparaître aussi une forme d'intrusion, puisque c'est moi qui paye. Ce qu'on n'avait pas avant les années 90. Le chômage des cadres, et maintenant on le dit, les petits-enfants n'ont pas, ou même les enfants, parfois ils sont au chômage, il faut retourner à la maison, mais aussi les enfants gagnent en moyenne moins que leurs parents. Donc pour y faire face, en plus, les choses coûtent cher, donc on va retourner la permission aux grands-parents d'exister dans la vie des enfants. Donc, ils iront chez les grands-parents pendant les vacances pour éviter de payer, ça coûte trop cher, centre de loisirs, on va envoyer chez papy. C'est des raisons économiques qui leur donnent cette place, à certains cette place aujourd'hui. Mais comme ce sont des raisons économiques, quand ça bouge économiquement, ça bougera aussi. Ce n'est pas... une forme éducative, c'est une posture liée à une situation de crise. Puisque, pour l'instant, on n'a pas encore remanié en Europe l'idée, on n'a pas construit l'idée que le parent, les grands-parents soient tout-puissants. Ils sont aidants sans être tout-puissants, pour l'instant. Pour l'instant. Alors, si ça dure un peu plus longtemps, on pourra reprendre un peu cette posture-là. Mais on voit apparaître ça et là à cause du pouvoir de l'argent et de la crise économique.
Qui ont des enfants et qui ont mais pas la place au père du tout, qui n'est même inexistant. Enfin, juste, il est là juste pour l'acte, on va dire vulgairement, mais c'est tout. Et ça, c'est dû à quoi? C'est pas dû à la crise économique.
Ah,
c'est
non.
Dû à l'éclatement des familles.
Pardon. Non, non, non. Alors, on confond deux choses aujourd'hui dans la société européenne, enfin occidentale, en métropole. Deux choses. La réalité du patriarcat et la société du droit et du devoir, qui sont des sociétés très différentes. D'accord? À partir des années 70, on est passé de la société du devoir à la société du droit, y compris les droits de l'enfant. On est allé, on a donné des droits à tout le monde, hein, y compris les enfants ont des droits. D'accord? Bon, c'est pour cela qu'on voit apparaître un nouveau métier, qui est, ce sont les médiateurs. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit d'échouer son couple en Occident, mais de réussir son divorce. Donc, quand on a des formes de monoparentalité, c'est suite à un divorce. La plupart du temps, la monoparentalité, au niveau des statistiques aujourd'hui, hein, la monoparentalité, c'est suite à un divorce. Et la dernière enquête qui est parue il y a 3 mois, oui, ça fait 3 mois. Montrez ceci. Bon. Alors, lorsque la monoparentalité arrivait suite à un divorce, la mère vivait en moyenne 4 ans avec son enfant seul et faisait une famille recomposée. Le parent. Généralement, c'était la mère. Lorsque c'était un veuf, le veuvage, c'est 5 ans. Et ensuite, il y avait une recomposition familiale. Lorsque les gens rentraient dans la monoparentalité, vous aviez 2 choses. C'était des femmes à faible revenu. Et deuxièmement, cette monoparentalité durait 10 ans. Donc, on est bien encore sur le facteur économique. D'accord? C'est le facteur économique qui joue là-dessus.
Ce que je propose, c'est pas de continuer là-dessus, parce que je pense que c'est une conférence en soi. J'y ai pensé d'ailleurs pendant qu'on parlait, qu'on pourrait faire une autre conférence, hein, qui est tout aussi intéressante, mais qu'il faudrait travailler un petit peu pour rentrer un peu plus dans le détail comment ça se passe chez nous. Hein. Mmh. Et aussi les couples mixtes, hein, je crois que voilà. Mmh. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement peut-être avec l'aide de Cosette ou si elle ne peut pas, quelqu'un d'autre. Mais on voudrait juste terminer parce qu'il est déjà 22h40,
oui,
hein, je le signale. C'est bien, demain personne ne travaille, donc c'est bien. Donc ça tombe bien. Mais juste terminer cette soirée-là sur le sujet qui a été abordé, c'est-à-dire la femme potomitante, parce que je pense qu'on n'a pas tout épuisé, s'il y a encore quelques questions. Voilà. Moi, j'ai aussi juste une question, parce que je me suis un peu documenté avant de venir, et puis j'ai vu deux dictons, je ne sais pas si ça, c'est avec ça. Il y en a un qui s'appelle « Le mariage, c'est béni péché ». Ça veut dire qu'on peut pécher en dehors du mariage, c'est quelque chose qui est pratiqué, c'est peut-être lié aux potomitants.
Alors, c'est lié pas aux potomitants, mais une pratique de l'esclavage. Rappelez-vous, le père biologique n'était pas le père reconnu officiellement. C'était le maître. Donc, il y avait une façon de vivre en couple qui était une précarité du lien dans l'existence du couple. Donc, et à ça s'est ajouté, rappelez-vous, on avait dit que dans le préambule, hein, je vous l'ai lu, c'était l'enseignement religieux était catholique romain. Donc vous aviez un mariage pour les esclaves, qui était un mariage provisoire, qui n'était pas reconnu comme péché en soi, parce que se marier était toujours une promotion. C'est-à-dire, tantôt ça a été une campagne de promotion d'institutions, de valeurs. Si tu étais un bon esclave, tu te mariais. Hein, tu acceptais les règles de l'Église catholique et tu te mariais pas forcément, d'accord? Lorsque l'esclavage s'est terminé, on a un siècle de colonisation, hein, à la fin de l'esclavage. Là, il y a la construction par le mariage d'une bourgeoisie noire. Donc, d'où cette expression que tu as, qui représente en réalité le mariage catholique était nécessaire pour avoir une réputation, une bonne réputation, comme on disait. Hein, pour une bonne réputation, quelqu'un de bonne réputation et de bonne famille se mariait. Mais son mari cavalait partout. Et donc, c'est intéressant. Parce que quand c'était le mari, dans le couple antillais, hein, j'entends, hein, cette bourgeoisie antillaise, quand l'homme de cette bourgeoisie cavalait, on disait qu'il plaît. Mon mari, il plaît à toutes les femmes. D'accord ? Quand c'était dans la classe pauvre, c'était un bon à rien. Et si vous lisez le livre de, comment il s'appelle, Maryse Condé, je me souviens, vous allez voir ça, parce que Maryse Condé vient d'une bourgeoisie noire, hein, d'accord ? Eh bien, elle raconte, c'est parce que je m'en suis servi dans mon travail, hein, son récit, eh bien, elle décrit son père comme un homme qui aime les femmes, or, parce qu'elle est dans une bourgeoisie, hein? Et alors que les hommes qui faisaient ça dans les classes pauvres, il était un bon à rien. D'accord ? La même situation était interprétée différemment. D'où cette expression que tu as. D'accord ?
Il y a une autre expression qui dit débrouilla pas péché.
Oui. Alors, débrouilla pas péché. Alors, c'est-à-dire. Alors, je ne sais pas pour la Martinique. Mais pour la Guadeloupe, on avait, dans la génération de mes parents, il y avait une image d'un... J'ai jamais su vraiment qui c'était. Mais on disait de celui-ci, quand il était très bricoleur, on l'appelait le Michel Morin. Le Michel Morin. Michel Morin. Donc, le Michel Morin, c'était celui-là. C'est-à-dire, débrouilla pas péché. C'est-à-dire, plusieurs choses. Comme les esclaves étaient pauvres, à la libération, on a fait venir les Indiens de l'Inde, je vous en avais parlé, pour prendre les terres et assurer le petit commerce, de façon obligatoire. Hein, et on leur prenait leur passeport, ils étaient obligés de venir 3 ans, et après 3 ans, ils pouvaient repartir s'ils voulaient. Bon. Donc, il fallait, pour survivre, faire vivre de petits boulots. Et donc, débrouilla pas péché, c'est-à-dire à partir du moment où je trouvais une solution pour ne pas mourir de faim, je ne péchais pas. C'est ça l'idée. Hein? Parce que c'était une valeur. Hein. Faut comprendre, l'enfant est éduqué aussi. Un enfant qui est autonome, on dit qu'il est débrouillard. Hein. C'est-à-dire c'est un enfant qui fait preuve de créativité pour faire face aux obstacles concrets auquel il doit faire face. Ça, c'est une qualité. Du coup, comme c'est une qualité, un père, une femme qui arrivait à trouver des astuces pour pouvoir, aux besoins de ses enfants, de sa famille, ne péchait pas lorsqu'il... pas voler seulement, mais... Voilà. Il y avait nécessité oblige pour survivre. Il y avait nécessité à contourner. Donc, c'est pour cela que débrouilla pas péché. Mais ça correspondait. Mais non, ça correspondait à une réalité, hein, dans une époque. Hein. À une époque, ça restait une réalité. Aujourd'hui, les choses ont quand même un peu changé.
Il y a des questions là.
Quand la mère dit qu'il attache son fils, que le fils peut partir, mais qu'il reviendra toujours vers elle. Pour dire, qu'elle dit, un mari fait son moins poil en moins. Il peut aller, mais il revient quand même.
Oui, mais elle a bien... Elle y a travaillé à l'empêcher de se détacher. D'accord ? Donc elle sait très bien qu'en se plaçant, comme je disais, comme seule référence, avec l'interdit de se détacher d'elle, alors même si il va fonder un couple, de toute façon, ça ira à l'échec et je le garderai. Autrement dit, la mère se place comme une rivale par rapport à la belle-mère, à la belle-fille. Il n'y a pas de différence de génération ici qui se marque, d'accord? Elle est dans la séduction et elle va, et les mères qui font ça, qui disent ça, sont constamment dans la séduction vis-à-vis de leur enfant. Et en particulier de leur fils, par exemple. Elle va lui dire, oh, fais ça pour maman, oh, dis bon à maman, quand je dis, oh! Elle va avoir une voix vis-à-vis de cet enfant qui va pas une voix qui sera jamais faite de sévérité, ni de cris, mais de douceur, mais mielleuse, une voix mielleuse. C'est comme ça qu'elle l'attache à ses poils, comme elle dit. D'accord? Bon. Elle aura une voix mielleuse et elle va lui donner une fausse douceur pour qu'il s'en aille jamais. Mais le conjoint en face va être de temps en temps avec une tendresse comme ça, mais de temps en temps on va lui dire, mais écoute, tu fais les choses. Et donc, c'est mieux chez maman. Maman ne me fait pas comme ça. Et c'est aussi quelqu'un que quand l'enfant se marie, le fils se marie, elle va lui dire, mais viens manger à la maison. Je t'ai préparé ton petit repas préféré. Ta femme ne sait pas faire le repas comme moi. Elle met en place tout pour le séduire. Pour le séduire, elle passe son temps à le séduire pour le garder. Et donc, il ne va pas pouvoir s'attacher parce qu'il aura un conflit de loyauté. S'il s'attache à elle, à sa femme, il trahit sa mère. Alors il préfère trahir l'étranger que la mère. Tu comprends? Quand elle dit ça, c'est qu'elles y travaillent, parce que ça ne se fait pas naturellement. Elles mettent en place toute une espèce de stratégie. Elles ne sont pas très revendicatives. Elles sont plutôt dans, eh oui, est-ce que tu peux faire ça pour moi si tu veux? Si tu peux, ne dis pas que je t'embête. Elles ne sont pas dans la... Quand elles sont dans l'exigence très forte, l'enfant met en place de la résistance. Mais les mères qui font cette stratégie sont des mères qui sont dans la manipulation affective. Alors effectivement, maman m'aime mieux que toi, me bouscule pas, ne réclame rien, me demande s'il te plaît, etc. Alors moi, je retourne chez maman.
Alors, je savais pas que tu étais là, Roselyse, mais la dernière fois, je sais pas si tu maintiens ça, qu'en Haïti, c'est encore pire parce que la mère ajoute l'occulte. C'est ça? Elle ajoute l'occulte. Hein. Donc en Haïti, c'est encore pire parce que la mère utilise l'occultisme pour amplifier en fait ce phénomène.
Ah ben oui, tout à fait. Mais je vais vous dire comment Dieu qualifie ça quand même. Hein. Je vais vous dire comment Dieu qualifie ça quand même. Hein, pour nous sommes chrétiens. Dieu appelle ça un péché. Parce que c'est de l'inceste. C'est ce qu'on appelle l'incestuel. Il y a l'inceste. L'inceste, c'est le lien plus la sexualité. Ça, c'est l'inceste. Mais sur le plan psychologique, il y a aussi l'incestuel. C'est l'incestuel, c'est ce lien d'attachement comme tu parles, dont tu parles, dont vous parlez toutes les deux, sans la sexualité. La sexualité, peut, elle laisse partir le fils parce qu'elle n'a pas le courage de franchir la limite de la sexualité avec lui, mais c'est tout ce qu'elle tolère, hein. Une sexualité extérieure, c'est-à-dire avec la femme qu'il a épousée. Donc elle fait en sorte que la femme, elle fait ça pour des raisons hygiéniques, comme on dit, il y en a qui le disent. D'accord, Paris, pour des raisons hygiéniques, mais vous rendez-vous compte, ça s'appelle un péché. Mais oui. Donc on comprend bien qu'il en a besoin de faire repartir la conquête. Hein. Hein, le travail, c'est un travail de reconquête hein, de ce qui normalement doit être. Hein? Oui.
Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de générations dominées, je dirais, par ce statut de potomitan?
Alors, je ne sais pas si on peut mesurer le nombre de générations, mais j'y vais plusieurs fois par an, au moins 5 fois, faire la. Et puis la formation est un espace où les gens, où on parle du couple, de la famille, enfin plein d'autres choses, de la souffrance, de la culpabilité. Donc, aux pauses, j'ai toujours des personnes qui viennent me voir pour me parler ou me prennent rendez-vous après le cours pour me parler d'une situation personnelle que à cause de quelque chose qui a été évoqué dans la formation. Et donc j'ai vu une évolution. Et je ne sais pas si vous en avez parlé, mais le lieu où j'aime aller, c'est au supermarché. Je vous en avais parlé. Eh bien, j'ai vu l'évolution apparaître parce que la notion de bien-être, la notion de sujet, hein, l'individu sujet, va peu à peu gagner la culture antillaise, le droit d'être sujet. Et on va avoir des mamies qui bénéficient aussi de l'allongement de l'espérance de vie, des mamies qui ont travaillé et qui disent qu'ils ont bien travaillé, maintenant il est temps qu'elles s'occupent d'elles. Donc on voit amorcer un peu petit à petit, hein, c'est un changement, hein, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, on voit apparaître des pères qui s'intéressent à la relation enfant-père, qui parfois se bagarrent quand on se sépare pour garder le lien avec leur enfant, ce qui est quelque chose de positif, parce qu'ils ont compris que dans le lien avec l'enfant, il y avait quelque chose à construire à deux. Bon. Et puis, et ce qui est à construire, hein, c'est le lien conjugal. C'est le conjugal qui est à construire. Là, c'est là le grand chantier, c'est le lien conjugal. Mais pour construire le conjugal, il faut que les jeunes mères acceptent de mettre en place le quitter. D'accord ? Il faut qu'elles ont besoin à la fois de donner une éducation identique aux garçons, à la fille, parce que bon, moi je viens d'une famille où j'ai des frères aînés et ma mère, ce qui faisait la différence, ce n'était pas le sexe, mais l'âge. En fonction de ton âge, tu avais des responsabilités. D'accord ? Si bien qu'elle, parce qu'elle était un peu militante en disant, moi, je ne vais pas te construire un garçon, un homme qui fasse rien pour sa femme, c'est hors de question. Donc, il leur faisait faire, hein, laver le vêtement, faire tout le monde, le roulement de vaisselle, tout le monde faisait. D'accord, mais et mes frères ont gardé cette habitude de faire, de repasser, de tout. De toute façon, je me rappelle de mon troisième, le plus jeune, et il aimait pas trop laver le linge, et ma mère a laissé son linge s'accumuler. Et un jour, quand il a mis trop de savon, ça, même après l'avoir séché, ça sentait le savon. Mais elle a laissé se dépatouiller avec tout ça, d'accord? Bon, mais aujourd'hui, il était hors de question que sa femme ne lui repasse son vêtement, hein, c'est toujours. Donc, il y a bien quelque chose de ce remaniement, hein, de cette éducation, où on, parce qu'on n'oublie pas, n'oubliez pas, que la porte d'entrée de l'homme, c'est du faire. Et il doit pouvoir faire un peu à la maison. Parce que c'est ce que, naturellement, le bras, c'est le soutien. L'épaule, c'est l'écoute. D'ailleurs, messieurs, quand madame vous raconte une histoire, enfin, ce qu'elle a sa journée, c'est pas pour avoir des conseils. Et vice-versa. C'est pour vous faire exister dans l'amour. D'accord ? D'ailleurs, ça a le dos de l'agacer. Vous avez remarqué ? Parce qu'elle vous raconte, sa journée pour vous faire exister dans le lien. C'est vous faire exister dans le lien. Hein, c'est pour vous reconnaître la place qu'elle vous donne, etc. C'est pas pour avoir un conseil. Un petit tuyau. Mais je sais que même si on le dit aux hommes, hein, ils n'arrivent pas à ne pas faire autrement. Alors, mesdames, vous le savez, ils ont du mal à faire autrement parce que leur porte d'entrée, c'est le faire. Donc, soyez un peu plus cool. Laissez un peu passer l'aura. D'accord ? Bon. La porte d'entrée, c'est du faire. Or, comme je disais à un homme que j'accompagne, je lui dis, c'est votre point fort. Donc, pour répondre à son besoin, pour répondre à ce qu'elle te dit, parce que sinon, elle en a marre, elle a décidé de s'en aller, elle dit, je peux vivre tout seul, hein. Elle peut vivre tout seul parce que le sexe est en dernier lieu. C'est pour ça que les femmes arrivent à vivre longtemps seules et pas les hommes. Mais c'est pas parce que les hommes sont infirmes, c'est pas vrai. C'est une différence. Mesdames, je m'adresse aux femmes. Parce que les hommes ont tendance à penser ça. C'est des portes d'entrée innées, différentes, que Dieu a données pour la coopération, pour s'attacher. Parce que, heureusement que la sexualité n'est pas est là, parce que je crois, mesdames, vous n'aurez jamais eu d'enfant. Hein? C'est là, alors ça, hein, focalisez ici, hein, il n'y a pas le reste, pas d'enfant. D'accord, hein? Dieu a bien fait les choses, il nous a rendus interdépendants. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun va apporter quelque chose de spécifique qui va participer à la, au fait qu'on s'attache, qu'on construise le lien. D'accord? Donc, bon. Dernière chose. Donc, si vous faites un peu, si vous faites ce qu'elle... Pas ce qu'elle exige. Parfois, souvent, d'ailleurs, elle le dit mal. Hein? Ça, c'est vrai. Elle le dit à la manière d'une mère. Alors, il faut que les femmes changent un peu leur tonalité. Hein? C'est pas votre enfant. Donc, il faut changer la manière de le communiquer. Bon. Bon. Mais si vous entendez le soutien, c'est-à-dire du faire, le faire, c'est facile pour vous. Parce que vous le mobilisez facilement dans tout le reste de la vie. D'accord? Bon. Vous aurez en récompense les petits dauphins. Vous aggravez votre cas en voulant faire, hein, de vouloir ne pas faire, d'accord? Bon, ceci dit, ça se fait dans un contexte amoureux et c'est censé se faire en toute sécurité et pas dans une relation dominante-dominée, ni chez l'une, ni chez la femme, ni chez l'homme, d'accord?
Bon, je crois qu'on a trouvé notre prochain sujet. Hein. Il passionne tout le monde. Je vous fais passer une feuille, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas partie de l'église, vous pouvez mettre votre email et si on fait une autre conférence avec Cosette, eh bien, on pourra vous envoyer les informations, en tout cas, si vous avez envie de venir. Voilà. Donc, si vous mettez votre email dessus, on pourra vous l'envoyer. On va arrêter là, je crois. De toute façon, on se reverra. La prochaine fois, c'est le 30 mai, c'est ça? 30 mai, voilà. Ok. Le 21 mai, pardon. Voilà. Oui, c'est aujourd'hui. Le 21 mai, voilà. Donc, c'est un jeudi soir. Donc, on retrouvera Cosette pour la suite de ce qu'elle a préparé pour nous. On va terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as appris ce soir. Te prions, Seigneur, que ça ne reste pas dans notre tête, mais que nous puissions le méditer. Et aussi le mettre en pratique, Seigneur, dans le prochain temps, Seigneur, pour que nos couples, nos foyers, nos familles, notre société, notre Église aussi puissent en bénéficier, pour que nous puissions entrer davantage, Seigneur, dans les plans que tu as préparés pour nous, et ne pas rester, Seigneur, dans les traumas, ne pas rester, Seigneur, dans ces passés traumatiques, mais vraiment guérir et sortir de ces schémas, pour vivre pleinement, Seigneur, le potentiel que tu nous as donné, pour la destinée que tu nous as accordée, l'appel, la vocation. Seigneur, nous te remercions pour Seigneur Cosette, et nous prions de la bénir encore, de la fortifier, de la renouveler et de l'accompagner, Père. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bon retour à chacun, puis à la prochaine.